En zone neutre, mesdames et messieurs! J'espère que le son était pas aussi fort pour vous autres qu'il l'était dans mes écouteurs. Laissez-moi des commentaires. Si jamais l'intro était trop forte, gênez-vous pas. Petite musique de fond, hein? Ben oui! Partagez ceux qui sont là, partagez en grand nombre, je le sais, en ce moment, il y a du gros hockey qui se joue. Spécialement mardi aujourd'hui, spécialement en zone neutre, le mardi 23 février. Me voici, me voilà! Je sais pas si vous aimez ça avec la petite musique de fond. Dites-moi-le dans les commentaires. Si ça vous tape ses nerfs, on l'enlève tout de suite. Shane Harper, salut mon Shane qui dit let's go. Ben oui, on est là, on est live. Je veux voir vos commentaires. Dites-moi de où est-ce que vous écoutez le podcast. Si vous êtes sur En Zone Neutre, sur la page Facebook, sur ma page personnelle, Facebook aussi, sur ma page d'humoriste, Simon Lavergne-humoriste. On est sur YouTube aussi. YouTube, la plus belle qualité d'image qu'on a, que j'ai sur le podcast en 1080p. Je le dis tout le temps, je suis pas plus beau. Mais l'image est plus belle, alors, en tout cas. Sur Twitch aussi. Hey, si vous m'écoutez sur Twitch, là, je veux le savoir, parce que On va pas y donner des chances à vitam aeternam à Twitch là. Yes, hey, gros show ce soir, je reçois. La raison pour laquelle, merci Marco. Ben oui, aujourd'hui c'est la première journée. La première journée de ma dernière année dans la trentaine. Donc, c'est ça. À partir de... Dans un an, je fête mes 40 ans. Donc, c'est ça. Hier, c'était ma fête. C'était aussi la fête à mon frère. Donc, frère jumeau, bonne fête, G. Si t'es à l'écoute. That's it. Laissez les commentaires si vous aimez ça, la petite musique en background. Donc, ce soir, ouais. Ce soir, donc, en zone neutre, une version spéciale du mardi, parce que, bon, en zone neutre était le mardi avant, on est maintenant, on est tombé le jeudi, parce que, avec la pandémie, tout ça, là, je faisais le podcast plus tôt. On est de retour à 19h30, donc, je suis content de retrouver ma case horaire. J'étais vraiment... faire des podcasts à 5-6 heures là, dans l'après-midi, quasiment. Le monde soupe, ils n'ont pas le temps de, ils n'ont pas le temps d'écouter des podcasts sur Facebook, sur YouTube. Donc, je suis bien content. La région de l'Outaouais qui est tombée en zone orange, couvre-feu à 21h30. Donc, je fais mon podcast quand même à 19h30, mais bon, il faut quand même que je sois chez nous à 9h30. Merci encore une fois cette semaine à Construction Mirique de me prêter vos locaux, de me prêter vos bureaux pour me faire un studio. Vraiment cool de votre part. Appelez-les si vous avez des besoins en construction. Éric Saint-Jean, Mélanie Hott, du maudit bon monde de Saint-André-Avelin, des amis. Donc, merci encore une fois de me prêter votre superbe bureau pour faire le podcast. Ce soir, je reçois vraiment deux personnes vraiment cool. Un que vous avez déjà entendu sur le podcast. Donc, un gars qui est venu nous parler de lutte, dans des podcasts précédents. Mais c'est un historien, hein? c'est un auteur à succès quand même. Donc, il va venir nous parler de son nouveau projet. Un nouveau livre in the making, in progress. Et puis, il va venir nous parler de ça ce soir. Et on reçoit aussi, pour la première fois sur le podcast, un gars de hockey, un gars que vous avez pu voir notamment à TVA, TVA Sport, qui suivait le hockey junior jusqu'à tout récemment et qui s'est consacré dernièrement justement à l'écriture d'un livre, un autre bio, si on veut, un livre super intéressant sur la vie de Georges Vézina, hockeyeur québécois, que notamment gardien de but pour les Canadiens de Montréal. Donc, voilà. La musique, c'est terminé. J'enlève ça. Je ne sais pas si vous aimiez le petit beat de fond. Laissez-moi des commentaires. On va peut-être la remettre tantôt. C'est un essai. On va voir si c'est plus agréable d'avoir de la musique de fond comme ça ou si c'est plus agréable de juste m'entendre. J'en doute vraiment très fort que c'est plus agréable de m'entendre. J'ai pas la voix la plus radiophonique de tous les podcasts. Ça j'en conviens. J'ai une voix de gars qui a travaillé toute la journée, qui a fait de la vidéoconférence puis qui fait son podcast à 7h30 le soir avec la voix qui reste. Donc, c'est pas mal à ça que ça ressemble. Encore une fois, merci tout le monde d'être là. Partagez le podcast à vos amis. Je sais, en ce moment, là, je sais que c'est le match canadien-sénateur. Dernière fois que j'ai regardé, c'était 2-0 pour les sénateurs. Tenez-moi au courant du score parce que je vais pas voir mon téléphone à toutes les 30 secondes. Je pense que c'est rendu 2-1. 2-1 pour les sénateurs contre les Canadiens. Donc, prenez un break des animateurs de hockey. Venez écouter le podcast en même temps que vous regardez le match de hockey. Nous autres, on n'a pas de trouble avec ça. Laissez-moi dans les commentaires, c'est rendu combien le score et tout ça. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont fans du Canadien. Il y en a d'autres qui sont fans des sénateurs. Ça n'a pas d'importance sur le podcast. On accepte tout le monde. On accepte tout le monde. On est bien lousse de ce côté-là. Petite plug, comme vous savez, bon, la région d'Outaouais est retournée en zone orange depuis hier, en fait, depuis lundi. Et puis, les restaurants ouverts, les restos-bars, certains restos-bars, pas tous les restos-bars. Il y a plein de contraintes, là, si je pense juste à ma gang du resto-bar La Drave à Gatineau, où est-ce que j'animais une soirée d'humour là-bas avant le premier confinement. Donc, depuis tout ce temps-là, eux autres n'ont pas réussi à réouvrir encore à 100%. Puis, tu sais, ils sont classés comme étant un resto-bar. Donc, ils ont la partie bar, la partie resto. Puis, de ce que je comprends, c'est un peu compliqué de réouvrir complètement en gardant tous les privilèges d'un resto-bar. Donc, ça a l'air un peu compliqué. Donc, j'ai une pensée pour eux autres aujourd'hui. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que qui dit zone orange dit retour des spectacles d'humour dans certains bars, dans certaines régions. On s'entend, là, c'est des c'est pas des bars, là, c'est des restos-bars puis qui sont considérés plus restos que bars, mais on va pouvoir recommencer à faire de l'humour progressivement dans les salles. Puis ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Donc, je vous encourage, il y a un show notamment vendredi, il reste quelques billets. Mon chum Phil Brown qui anime une soirée, un retour de l'humour en Outaouais, au Troquet, au bar Le Troquet. Donc, il y a une cinquantaine de places de disponibles si ma mémoire est bonne. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Donc, cherchez l'événement. Je pense que c'est simplement vendredi humour ou 5 à 7. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est les vendredis 5 à 7 au bar Le Troquet. Cherchez Phil Brown sur lepointdevente.com. Donc, aux dernières nouvelles, il restait quelques billets à vendre. Pas beaucoup parce que de ce que j'ai pu comprendre, il y avait vendu au moins 80 % des billets. Donc, puis il y a deux shows. Il y a un show à 5 heures pour le 5 à 7, autrement dit. Un show à 5 heures. Des shows, ça devrait durer à peu près là, 1h, 1h10 comme show. Puis, il y a un deuxième show à 19h. Donc, si tu veux aller voir, si tu veux y aller en soirée, si tu veux y aller en terminant le travail, tout ça, c'est drôle de dire terminer le travail, tu sais. Tu pars de chez vous en télétravail pour sortir, aller au bar, aller voir un show, mais go for it. Ça fait du bien. Je pense que les boys qui vont être sur le show, moi, je suis pas là, je suis pas sur le show, mais je le plug quand même. Donc, allez faire un tour là, le Troquet, super belle place, vraiment. Le monde sont vraiment nice au Troquet. Ils veulent de l'humour, ils veulent des shows. Ils permettent aux humoristes justement de pouvoir se produire sur des heures complètes de spectacle. Puis ils gèrent la place, ils prêtent l'équipement, tout ça. Donc, c'est vraiment une place super, super cool qui permet beaucoup pour les humoristes de la relève, entre autres. Mais aussi, il y a des spectacles, là, comme Phil, il n'a pas annoncé c'est qui son headline pour les deux shows de vendredi, mais c'est quand même, je sais que Phil travaille fort, puis que, en tout cas, il ne m'a même pas dit c'est qui encore, fait que je ne peux pas le dire. J'aimerais ça vous le dire en primeur, puis tu sais que vous puissiez acheter vos billets, mais de ce que j'ai compris, ce que Phil m'a dit, il travaille, ou il a déjà probablement booké, là, mais un gros nom. Donc, on va voir qu'est-ce qui va être annoncé, mais si j'étais vous autres, je prendrais des billets, puis tout se fait dans les... Dans le respect de la distanciation sociale. Le Troquet, eux autres ont présenté des spectacles lors du premier confinement, quand l'Outaouais est retombé en zone orange à ce moment-là. Ils avaient présenté aussi des spectacles d'humour, puis je suis monté sur scène là, et puis c'était A1, là, je veux dire, on est tout était très, très bien respecté. Eux autres, c'était pendant l'été ou le printemps, là. Ils ont la chance d'avoir une super belle terrasse en arrière, donc tu sais, ça devenait notre loge là, dehors, mais super belle place. Donc, je vous encourage à les encourager, autrement dit. Donc, voilà ce qu'il y en est pour les plugs de show d'humour. Donc, ce soir, on parle en première partie du show. Dans quelques minutes, on va les accueillir. Donc, les deux gars, les deux auteurs qui travaillent ou qui ont travaillé très fort sur leur projet. Et à la fin du show, en deuxième partie, on va parler de baseball parce que c'est le début des camps du baseball majeur cette semaine. C'est toujours autour de ma fête. Donc, c'est toujours autour du 22-23 février que ça commence. Il y a les lanceurs et les catchers qui arrivent un peu plus tôt, qui se présentent dans les camps du baseball majeur un petit peu plus rapidement pour travailler sur plein de trucs. Et puis, à partir de la semaine suivante, là, c'est les vrais camps qui commencent. Donc, tous les joueurs se rapportent à leurs équipes. Puis cette année, il y a eu beaucoup de mouvements, des grosses signatures, du gros mouvement de joueurs, puis pas des petits joueurs, là, pas des joueurs de série B. Là, il y a plusieurs kingpins qui ont changé d'adresse ou qui ont signé avec des nouvelles équipes. Donc, ça va être super intéressant de suivre les camps d'entraînement puis voir comment ça va se développer à l'intérieur des équipes. Il y a des équipes qui sont surprenantes sur papier. On en a parlé la dernière fois avec Charles-Alexis Brisebois, qui va être là avec nous un petit peu plus tard aussi pour en rejaser. Mais on avait parlé d'une possibilité, si c'était possible, de voir 162 matchs des Padres contre les Dodgers. Je pense qu'on achèterait des billets ou on s'abonnerait au streaming, en tout cas, de tous les matchs, des 162 matchs. Donc je pense qu'on va en rejaser tantôt. Charles-Alexis va être avec nous autres, puis possiblement un autre invité avec lui. Donc, on va parler de ça tout de suite après qu'on ait parlé à Pat Laprade et à Michael Lalancette. Donc, je vous invite une dernière fois à poser des questions. Donc, pendant le show, Pat et Michael, puis ensuite les gars de balle, les gars de baseball, on va prendre des questions. N'hésitez pas, puis aussi, tenez-moi au courant du score de la game du Canadien tout au long du podcast. Donc, puis partagez en grand nombre. Ce serait vraiment cool qu'on recommence à avoir un bon nombre de participants pendant le show, maintenant qu'on est de retour à 19h30 plutôt que 17h ou 18h comme on a été dans les dernières semaines. Donc vraiment, là, je suis content de reprendre cette case horaire-là, mais partagez-le pour que le monde soit au courant qu'on est de retour à cette case horaire-là. Donc, sans plus tarder, je vais amener un de mes premiers invités, puis l'autre n'est pas connecté encore, mais quand il va se connecter, on va l'amener avec nous autres. Donc, vous le connaissez, ceux qui suivent le podcast, parce que on a jasé deux fois de lutte sur des épisodes qui ont duré plus que 2 heures, parce que on était une gang de passionnés de lutte, puis on a jasé avec lui à ce moment-là. C'est un historien de la lutte, mais c'est un historien, je découvre que c'est un historien en général, c'est un gars passionné des sujets qu'il traite, parce que il va écrire, ou il est en train d'écrire en ce moment, justement, un livre sur la vie d'un des plus grands capitaines du Canadien de Montréal, puis j'ai nommé Émile Butch Bouchard. Donc, on va en jaser avec lui ce soir, puis c'est cool parce que il y a deux projets de grandes légendes du Canadien qui sortent simultanément, ou en tout cas qui ont été annoncés. Puis c'est le fun, on les a les deux ce soir sur le show. Donc, sans plus tarder, j'amène Pat avec moi. Salut mon Pat, comment ça va?
Ça va très bien, toi-même.
Oui, je suis content de te parler. Projet vraiment cool. Michael va se joindre à nous autres dès qu'il va se connecter. On va l'amener avec nous autres. Mais on va parler un petit peu de ton projet. Puis on va parler aussi un petit peu de comment qu'on arrive avec un plan comme ça, ou comment ça se déroule, écrire un livre sur la vie de quelqu'un. Tu sais, c'est pas, ça te tombe pas tout cuit dans les mains, j'imagine. Il y a des pourparlers. Il doit avoir quand même de la négociation qui se fait en arrière de tout ça. Comment ça t'est arrivé, ce projet-là, d'écrire un livre sur le grand Émile Bouchard?
Ben, j'ai toujours voulu, ça fait des années maintenant que je veux écrire un livre sur le hockey. Je ne voulais pas compléter ma carrière comme auteur avant d'avoir fait un ouvrage sur le hockey. Après le livre sur le géant Ferré, ben, je me suis penché sur... quel sujet je pourrais parler et tout ça. Puis bon, moi, écoute, je lisais sur le hockey, je lisais sur l'histoire du hockey bien avant celle du monde de la lutte professionnelle. J'étais tout petit, puis je lisais des livres là-dessus. C'est un sujet qui m'a toujours passionné. Et puis là, en parlant avec mon éditeur, on a réalisé que, bon, j'y proposais certains trucs. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben écoute, t'as-tu pensé à une biographie, peut-être Butch Bouchard? Et je me suis dit, ah ok, ça pique mon intérêt. Je me suis mis à lire un peu là-dessus, puis j'ai réalisé que ben c'était dans le fond le pont parfait entre ce que je fais avec la lutte et là m'introduire dans le monde du hockey, parce que ben c'est une biographie d'un homme décédé qui a vécu à une autre époque que la mienne. Puis ça, c'est un format. C'est un format que je connais bien, dans lequel je suis à l'aise, autant avec Mad Dog Vachon qu'avec le géant Ferré. Donc, je me suis dit, ben écoute, oui, OK, ça pourrait avoir de l'allure. Je me suis mis à faire de la recherche, ce qui est bon, est-ce que c'est un sujet sur lequel je pouvais justement commencer à lire? Ça me passionnait-tu? Ça venait-tu me chercher d'un trip? Puis écoute, ça n'a pas pris de temps que j'ai réalisé qu'Émile Butch Bouchard avait eu une carrière, une vie incroyable. Et en fait, oui, j'ai vraiment le goût d'écrire là-dessus. Je me suis entendu avec un éditeur et par la suite, ben, j'ai parlé à la famille. Donc, j'ai parlé principalement à deux de ses fils, Pierre Bouchard, évidemment, qui a joué avec le Canadien, qui a été longtemps commentateur et animateur à la radio, et Jean Bouchard. Jean Bouchard, c'était celui qui, avec Ron Fournier à l'époque, avait fait campagne pour que le retrait du chandail de M. Bouchard se fasse chez les Canadiens. Et on me le décrivait comme étant un peu l'historien de son père dans la famille, tu sais. Au bout de quelques semaines, ben, j'ai eu la bénédiction des deux qui collaboraient avec moi pour l'écriture de ce livre-là, donc je pourrais avoir accès à non seulement leur mémoire, mais également, entre autres, Jean Bouchard, à tout ce qui est archive, tout ce qu'il avait pu accumulé sur son père au fil des années, surtout là, entre 2007 et 2010, là, je te dirais. Donc,
c'est important. C'est important. Parce que, tu sais, justement, vu que l'être est décédé, t'as plus accès à lui-même pour t'en parler. Donc, ça, c'est j'imagine, c'est super important aussi.
Ben oui. Puis, contrairement à Michael qui va te raconter son histoire, ben, moi, tu sais, le Butch Bouchard n'est pas décédé en 1926, là, tu sais. Ouais, il est décédé en 2012. Fait que ses enfants, en 2009 plutôt. Voyons. En 2012-2009, c'était le retrait de son chandail, je vais l'avoir. Donc, ce qui fait en sorte que, tu sais, ses enfants sont encore vivants. C'est Michael n'a même pas eu cette chance-là. T'sais, lui, il a fallu qu'il passe par les petits-enfants. Donc, ça, c'est toujours payant qu'on peut avoir la collaboration de la famille. Pour le géant Ferré, c'est un peu la même chose, tu sais. L'information que les deux frères du géant m'avaient donnée, c'était de l'information qui était tellement importante et tellement pertinente, là, tu sais, que j'aurais pas pu m'en passer dans le bout de ligne.
Est-ce que tu as dû avoir les permissions, par exemple, du Canadien de Montréal ou?
Non, une biographie, t'es pas obligé d'avoir. Techniquement, t'es pas obligé d'avoir la permission de la famille, même. Tu peux écrire. Ah ouais? Même sur une personnalité encore vivante, une biographie, t'es même pas obligé d'avoir la permission de la personne pour écrire sur elle.
Ah ouais, ok, je savais même pas ça.
Ben, c'est comme un article dans un journal. Tu ne demandes pas la permission à quelqu'un avant d'écrire un article sur lui dans un journal, dans une revue. La seule chose, c'est qu'évidemment, comme dans tout projet, si tu fais des propos qui sont diffamatoires, ben là, tu t'exposes à ce qui vient avec. Là. Mais sinon, tu peux écrire sur n'importe qui. Tu peux faire la biographie que tu veux.
Est-ce que dans le processus, t'as pensé à écrire sur quelqu'un d'autre ou vraiment c'était quand tu t'es dit je vais écrire une biographie sur un joueur d'hockey, tu t'es dit je vais y aller all-in avec un des plus grands?
Ouais, non, mais en fait, la proposition m'est venue d'écrire sur Butch et non pas de faire une biographie. Okay. Donc, l'idée est arrivée comme en même temps. J'avais d'autres idées, mais qui étaient plus thématiques et non pas nécessairement biographiques. Et étant donné que, ben, pour beaucoup de personnes, j'imagine, tu sais, ben, Pat Laprade, c'est un gars de lutte, c'est pas nécessairement un gars de hockey. Donc, la biographie, finalement, je trouvais que c'était la meilleure façon là, de commencer au niveau hockey avec ça. Là. Ouais.
Mais tu sais, de toute façon, on se souvient que t'as un membre de ta famille qui a joué pour les Rangers, ça, tu l'as dit sur le podcast.
Ouais, mais finalement, j'ai-tu compté la version récente de cette histoire-là?
Ben, je pense que je l'ai vu sur ta page Facebook, mais compte-la pour les auditeurs qui nous écoutent parce que c'est super intéressant.
La déception, Simon, là. Moi, mon père m'a toujours dit que son père, à lui avait dit que Edgar Laprade, qui a joué avec les Rangers de New York dans les années 30-40, début 50, qui a remporté le trophée Calder, Lady Bing, qui est membre du Temple de la Renommée, il a toujours dit que c'était son cousin. Bon, par cousin, moi, je m'étais toujours dit, bon, OK, c'est peut-être pas cousin germain, tu sais, mais c'est peut-être, bon, tu sais, leurs parents, leur père était peut-être cousin, tu sais, ou quelque chose comme ça, tu sais. Alors, à un moment donné, ça me fatiguait et j'ai un contact qui fait de la généalogie. Et je lui ai demandé de trouver la généalogie de Gare Laprade. Et boy! Le lien entre mon grand-père et Edgar Laprade, effectivement, ils sont cousins, Simon. Il faut dire le mot petit. Tu sais, on a des petits cousins dans la vie, là. Tu sais, mettons le ma mère, sa cousine, c'est ma petite cousine, c'est de même que ça marche. Oh, mais il faut dire le mot petit 9 fois pour établir leur relation. Moi, il faut que je le dise 13 fois avant d'arriver à Edgar Laprade. Okay. Bon, on a le même ancêtre. Déjà là, je sais pas si c'est pas si pire. On a le même ancêtre, mais ça s'arrête pas mal là. Fait que ouais, j'ai comme l'impression que mon grand-père, il a menti à mon père, ou bien. Lui-même, il a été mal informé, mais...
Mais c'est pas grave, ça reste de la famille, tu sais, c'est pas grave. Mais
tu comprends pas, je collectionne les cartes dans ma vie, les cartes de hockey. Je collectionne les cartes de Gare Laprade depuis que j'ai comme 12 ans, parce que, c'est le cousin de mon grand-père. Puis là, ben, tout ça s'est envolé là, en fumée, là. Hey, j'ai sacré après mes ancêtres là, cette journée-là. Mais c'est correct. On va.
Ça fait une belle anecdote.
Ça me fait une belle anecdote, ça demeure un Laprade. Fait que, bon, ouais, il y en a eu un dans la ligue. Là,
mais c'est bon quand que 13 générations ou 13, peu importe, là, 13 paliers, que, ouais, 13 qui est encore paliers, le nom Laprade, parce que souvent les noms sont déformés. Là. Moi, dans ma famille, tu ne remontes pas bien ben loin, on n'est plus des Lavergne, là, c'est la descendance française, puis c'est pas loin. Là, fait que c'est quand même bien qu'il y ait encore le nom Laprade à autant ben, de paliers. Là.
Notre ancêtre, c'est là qu'il a scrappé son nom. C'est que notre ancêtre, c'était, je ne me trompe pas, c'était Jean, son prénom, là, mais là, je peux me tromper sur le prénom, mais c'était Jean Regéa dit Laprade. Parce ouais. qu'il habitait dans une commune en France qui s'appelait Laprade. Mm-hmm. Mais dès qu'il y a eu des enfants, c'est le nom Laprade qu'ils ont eu. Donc, okay. Le nom Regéa, je ne sais pas si on connaît ou s'il y a des Regéa qui nous écoutent, mais j'ai pas souvent entendu parler de ça comme nom de famille, Regéa.
Non, moi non plus.
Ils ont pris Laprade, là. C'est pas bien, bien mieux, mais c'est une petite coche de plus.
Ah, c'est bon. Écoute, Mickaël est là, on l'amène avec nous autres. Salut, Mickaël, ça va bien?
Hey, je m'excuse, mais vous allez comprendre que je suis débordé d'entrevue. Fait que alors, là, c'est pas ma faute, hein, comme vous pouvez deviner.
Ah, arrête, là, on dirait quasiment que tu as sorti un livre cette semaine. Là.
Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
Ah, j'aime ça, Mickaël. Merci d'être avec moi ce soir, avec nous, en fait, avec Pat. Je trouvais ça bien de vous inviter les deux en même temps parce que, bon, toi, Mickaël, ton projet est déjà pas mal avancé. Donc, en précommande, on peut se procurer le livre L'habitant silencieux, donc une bio ou un livre sur la vie de Georges Vézina. Ouais. Fait que je suis content de te parler. Je le sais, je te vois aller dans les médias un peu partout, puis je fais comme j'en reviens pas qu'il ait accepté de me parler.
ben non, mais écoute, premièrement, ça me fait plaisir. Puis quand j'ai su qu'en plus, ça pouvait être avec Pat, c'était bien le fun. Puis tu sais, on est passionné. Dans le fond, on en revient tout le temps à ça. Mm-hmm. Moi, cette tournée de médias-là, je la savoure au maximum. Premièrement, j'étais en brique syndicale depuis une couple de semaines, fait que ça fait du bien de revenir dans la loupe des médias, mais non, c'est bien le fun d'être avec vous ce soir pour parler de ce projet-là, parce que j'ai l'impression que moi et Pat, dans les prochaines semaines, on va se parler souvent.
Ouais, ben d'ailleurs, je peux me permettre, Simon, j'ai fini ton livre tantôt, Mickaël.
Oh, OK.
Ça m'a pris 5 jours, donc c'est pas si pire, c'est une bonne moyenne. j'ai adoré ça, je te l'ai écrit cette semaine, j'ai hâte de t'en parler davantage, j'ai des questions, mais pour vrai, c'est une super lecture, puis... Georges Vézina, c'est un nom qu'on entend parler. Moi, c'est un nom que j'entends parler depuis aussi longtemps que je me souviens d'avoir suivi le hockey, à cause du trophée, bien entendu. Le joueur, on le connaissait moins. Et là, j'ai vraiment l'impression de mieux comprendre, de un, pourquoi il y a un trophée à son nom, et de deux, pourquoi on dit de lui que ça a été un des meilleurs gardiens de but de tous les temps. Chose que on avait vraiment pas grand-chose sur se baser, à part quelques statistiques plus souvent qu'autrement trompeuses. Et là, je trouve que le livre de Mickaël vient vraiment rendre justice au talent de ce joueur-là. Alors, pour vrai, mec, chapeau. Je te dis pas ça parce qu'on est en podcast, là. Je vais te le redire souvent. Chapeau, c'est un super livre.
Ben c'est, écoute, Mickaël, ça, c'est des beaux commentaires. Un gars qui en a écrit quand même aussi des livres plus, sur des athlètes, donc c'est pas un commentaire qui sort de nulle part. Je trouvais ça vraiment le fun de t'avoir ce soir parce que contrairement, disons, à quelqu'un qui écrit une bio ou un livre sur quelqu'un qui a vécu près de notre époque, tu sais, où ce qu'il y a plus d'accès à l'information puis tout ça, toi, t'as écrit un livre sur un gars qui est décédé, tu sais, dans les années 20, où est-ce que ses petits-fils qui sont dans les 80 ou 70 ans, j'ai vu un reportage sur ça, où est-ce que tu les as rencontrés justement au centre Georges Vézina. Comment c'est d'essayer de trouver de l'info sur quelqu'un qui est décédé, tu sais, il y a tellement longtemps comme ça?
Ouais. Ben moi, la première petite fille que j'avais contactée, c'est Françoise Vézina. Je la cite au début. Puis, tu sais, moi, dès le début de ce projet-là, en fait, dès les racines de ce projet-là, je savais que la famille pouvait pas beaucoup m'aider. Mm-hmm. Parce que il me disait tout le temps la même chose. C'était qu'il avait pas su grand-chose, puis qu'il leur restait pas grand-chose. Bon, Françoise Vézina, il reste la Coupe Marois, là, le beau trophée, le dernier trophée que Vézina a gagné. Madeleine, sa sœur aînée, elle a le meuble qui a été construit par leur grand-père, qui avait été remis à leur grand-mère. En termes de souvenirs, c'est pas mal tout. Il y a une couple de photos dans la famille qui sont partagées là, entre un peu tout le monde, mais il reste plus grand-chose. Puis, ils pouvaient pas vraiment m'aider sur les sources documentaires. Au fil du temps, ben ils ont eu des photos puis tout ça, mais tu sais, ça s'est limité pas mal à ça. Françoise Vézina, c'était elle qui avait fouillé pas mal, un petit peu plus. Là. Tu sais, elle était passionnée de son grand-père dans le sens qu'elle n'avait pas connu, mais sa grand-mère était sa marraine. Puis pour elle, il y avait un lien supplémentaire. Fait que c'est avec elle que j'étais plus près. Puis ben c'était un travail complètement fou dans les archives, dans les journaux, bien entendu, les actes de notaire. Tu sais, j'ai essayé d'aller partout ce que je pouvais. Là. Tous les livres qui ont été écrits sur le Canadien, je les ai à peu près tous lus pour essayer de trouver des trucs sur Vézina. Tu sais, j'avais comme une obsession, Georges Vézina, dans le sens que je voulais être sûr que je prenne pas de chance de pas lire tel livre puis au risque de laisser quelque chose d'intéressant sur lui. Tu sais. Fait que les livres de Claude Mouton, les livres de Maya. Je, tu sais, j'ai vraiment essayé de regarder tout ce qui avait été qui avait rapport à Vézina, dans le fond. Puis, ça a été ça. Quand j'ai relancé le projet au mois de mars, j'ai complété ce que j'avais parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Puis, Pat, je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Tu sais, les journaux francophones sont beaucoup, sont numérisés. Tu sais, sur le site de la Bibliothèque nationale, c'est le fun d'aller fouiller là-dedans. Là. C'est plus comme avant que dans les débuts du projet, là, je me souviens que c'était encore beaucoup des microfilms. Là. Tu sais, il fallait fouiller. Puis, c'est costaud, là, aller fouiller dans les microfilms. Je l'ai fait cet été pour les journaux anglophones, puis c'est pas évident parce que souvent, la luminosité est pas bonne, donc tu passes ton temps à changer les réglages, puis malheureusement, il y a des microfilms qui sont de mauvaise qualité, fait que, tu sais, c'est une grosse job, mais c'est de plus en plus facile à faire ça, fait que c'est quand même le fun.
Oui, non, t'as raison, moi je l'ai fait beaucoup pour la lutte, évidemment, ces recherches-là, puis les archives nationales, surtout en ligne, là, tu tapes un nom. Et ben là, tu as tous les journaux qui sont déjà numérisés, La Presse, entre autres, La Patrie, qui étaient des sources d'informations incroyables. Le Canada est également là-dessus. Tout à peu près sauf le Journal de Montréal et le Montréal Matin. Mais toi, c'était pas un problème, c'était pas à l'époque de Georges Vézina, donc t'étais correct là-dessus. Mais sinon, tout est là, tu sais, donc ça, c'est intéressant. Puis bon, j'imagine quand même. Le journal de Standard où Georges Vézina écrit une chronique, j'imagine que tu as trouvé ça aux Archives nationales, toi.
Ouais,
c'est ça demande beaucoup de recherche, c'est un travail qui est souvent de longue haleine, faire des recherches historiques comme ça, mais c'est sûr que c'est plus facile quand t'as un site comme la Bibliothèque nationale où, en quelques clics, tu peux au moins avoir tout devant toi. Là,
c'est ça. Tu peux y aller par mots-clés et tout ça. Là.
Ben oui.
J'ai posé la question à Pat au début aussi, Michael. Je te la pose à toi. Comment tu viens à vouloir écrire comme ça sur une personne en particulier? Comme je le sais, je vous écoute, je vous suis un peu partout. Je sais que vous êtes des passionnés, que ce soit la lutte, que ce soit le hockey, tout ça. On est des passionnés de hockey, mais comment qu'on en vient à décider, OK, moi, c'est sur lui que je veux écrire? T'sais? Est-ce que toi, Michael, tu as un attachement, par exemple, particulier? Est-ce que tu viens de la région de Chicoutimi là-bas?
Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Il faut qu'il y ait un attachement, parce que c'est faut avoir beaucoup d'amour là, pour ces athlètes-là, pour ces personnes-là, pour leur consacrer autant de temps, parce que je sais que Pat, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, puis c'est des heures et des heures, puis si tu n'es pas passionné puis tu n'aimes pas le personnage, tu vas lancer la serviette, tu continueras pas. Moi, à un certain moment donné, au printemps, je faisais des listes là, de choses que je voulais trouver. Puis des fois, c'est des affaires hyper banales. Puis là, tu mets, tu sais, 3 jours, 4 jours, 5 jours à essayer de trouver. Moi, je me souviens, là, je pense que j'ai passé 2 semaines à essayer de trouver où est-ce qu'il restait à Montréal. C'est banal, là, mais moi, je voulais pas prendre pour acquis qu'il était à l'hôtel. Je voulais être sûr. Je me disais peut-être parce que les petits-enfants se souvenaient, il n'y avait pas de souvenir ou ils ne savaient pas. T'sais, ils ne pouvaient pas me dire. Puis à un moment donné, une petite fille m'a dit, je pense qu'il y avait une suite, là, il habitait dans un. Mais tu sais, là, jusqu'au jour où à un moment donné, je trouve la confirmation que c'était à l'hôtel, rien d'autre. Fait que là, j'ai OK. Puis là, après ça, j'en ai trouvé d'autres. Puis je me doutais que c'était ça, mais tu sais, je le savais pas. Puis tant que tu ne l'as pas trouvé, tu veux chercher. Fait que oui, j'ai un attachement parce que, évidemment, c'est un gars du Saguenay, mais je suis un passionné de gardien de but aussi. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas la. Comme Pat l'a dit tantôt, je pense que Pat a tellement bien résumé la situation. Tu sais, quand tu dis on savait que c'était un grand gardien, mais on disait qu'on savait pas pourquoi et comment il l'a été. Puis en regardant ses stats, c'est trompeur. Tu sais, juste gagner deux Coupes Stanley, puis sa fiche est correcte, mais pas, tu sais, sans plus. Mais quand tu y vas saison par saison, puis tu analyses le genre d'équipe que le Canadien avait, puis ses performances, c'est là que tu mesures la pleine contribution de ce gars-là. Puis cet attachement-là, pour moi, ça n'a jamais diminué du début jusqu'à la fin du projet.
Et c'est drôle, écoute, avec la lutte, je vis la même chose. Des fois, je vais passer là, des heures et des heures à trouver juste une petite information là, tu sais, qui va juste faire la différence. Mais pour moi, là, je ne sais même pas si le lecteur en bout de ligne va l'apprécier.
Mais non,
Ça. Mais, oh, moi, je suis content quand je l'ai trouvé. Ah, mais écoute, je me reconnais tellement dans ce que tu expliques là, c'est fou, là, ouais.
Ouais, c'est carrément ça. Tu viens fou, là. Là, tu es tellement heureux d'avoir trouvé ton info. Ah, sincèrement, c'est enrichissant comme processus. Tu sais, j'aurais le goût de dire à du monde, faites-en de ce genre de petites affaires-là, même si ce n'est pas des recherches de grande envergure. Mm-hmm. Si vous avez une curiosité, allez-y fouiller dans les archives nationales. Puis là, tu tombes sur plein d'articles, tu vois des affaires. Oh, là, tu ris parce que des fois, tu es découragé un peu hein, aussi de ce qui est écrit dans les journaux de l'époque. Puis c'est enrichissant, vraiment.
Ben oui, c'était une autre époque. Je lisais, moi, la patrie de 1902-1903, les expressions qui sont utilisées, certains mots qu'on ne pourrait plus jamais utiliser maintenant et qui étaient utilisés à profusion. Mais de voir les publicités de l'époque et tout ça, c'est un petit bijou quand tu te mets à fouiller là-dessus. Puis c'est disponible à tout le monde. Là, je veux dire, n'importe qui avec l'Internet peut aller voir la patrie de 1902 s'il veut. Mais moi, si tu me permets, Simon, j'ai une question pour Mick.
Je te permets tout, moi, Pat, parce que tu m'as dit que tu ne voulais pas que ça dure 2 heures, mais tu participes tellement au show qu'on va faire plus long, c'est sûr.
mais pour vrai, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné de la démarche de Michael, c'est d'avoir réussi à trouver un éditeur comme les éditions de l'Homme. Parce que bon, moi je sais, là, j'en ai écrit des livres, puis j'en ai pitché des projets. C'est pas tous les projets que j'ai soumis qui ont été acceptés. Et là, tu arrives avec une proposition de quelqu'un qui est décédé il y a 100 ans, même si bon, c'est Georges Vézina et le nom est très familier. Ce qui m'a impressionné, c'est que tu arrives à se carrer avec une grosse maison d'édition comme les Éditions de l'Homme. C'est un projet qui, à la limite, là, tu m'aurais dit, je l'auto-publie, que j'aurais pas été surpris non plus. Je suis curieux de savoir comment ça aboutit avec les Éditions de l'Homme. Parce que tu as commencé à travailler d'arrache-pied là-dessus là, depuis le début de la pandémie. Bon, je comprends, il y a des années de recherche, mais tu sais, plus soutenu là, dans la dernière année.
Bien, c'est vraiment une bonne question parce que moi, là, je dois avouer que justement, tu sais, il y a eu la pandémie. Ça a été mon déclencheur. Puis ça, c'est une autre affaire. Je vais juste faire une mini-parenthèse, dire au début, je me disais, j'en parle-tu de ça? Tu sais, de dire que ça a été le déclencheur. Après ça, je me dis, bien oui, il faut que je m'assume. Ça a été ça le déclencheur du fait que j'ai fait le livre. Sinon, là, tout le temps que j'ai mis là-dessus, je ne l'aurais pas eu. Tu sais, si j'avais continué à travailler au quotidien, c'était pas le genre de projet que je pouvais arriver chez nous après une journée de job, dire je mets une heure ou deux pour travailler sur le livre. C'était pas ça. Il fallait que je travaille 8-10 heures par jour, 12 heures des fois, pour être capable d'avancer puis de m'imprégner de tout de toute l'information que j'avais et tout ça. Alors, ça, c'est la petite parenthèse. Puis, comme c'est la pandémie qui a été le déclencheur de ça, moi, je me suis dit, j'approche aucun éditeur. Je fais mon manuscrit. Je fonce. Quand il va être terminé, je vais le soumettre. Puis, advienne que pourra. Si la maison d'édition de l'Homme n'en veut pas, bien, j'irai cogner à d'autres portes. Puis, pourquoi je me suis dirigé vers de l'Homme? Je savais, premièrement, bon, la taille de la compagnie, la renommée de cette maison d'édition-là. Puis, c'était aussi par loyauté pour Québécois, qui était mon employeur avec TVA. Tu sais, écoute, j'ai travaillé pour TVA, Québécois pendant 10 ans. Puis, bon, ça s'est terminé de façon peut-être un peu décevante, mais je suis quand même, tu sais, je suis hyper reconnaissant, puis je ne suis pas amer. Puis, pour moi, ça allait de soi que je le présente à Québécois. Alors, j'ai soumis le manuscrit, puis Pat, tu vas peut-être 100 mots, mais une semaine après, j'avais un contrat.
Non, la semaine après, ça j'y crois pour vrai, puis tant mieux, puis félicitations, parce que ça veut dire qu'ils ont vu. Mais tu vois, ça, je savais pas que tu avais soumis le projet fini.
Un coup, c'est fini. Ouais.
Ça aide, parce que ils vont le lire au complet, et là, ils vont voir, ah, OK, oui, OK, là, je comprends. Je suis pas sûr que tu aurais eu la même rapidité ou le même taux de succès.
Ah, sûrement. Tu avais
présenté l'idée juste avec un ce qu'on appelle un one-pager. Puis, tu sais, juste en disant, bon, voici les grandes lignes de ce que je veux parler. Mais une fois qu'on le lit, là, je comprends tout à fait. Mais ça veut dire que ça n'a pas été long pour que le livre soit imprimé. Parce que, bon, je sais qu'il y a un travail d'édition là-dedans. Ouais. Tu sais, bon, habituellement, si on parle de 6 mois, toi, ça s'est fait dans des temps records, ça veut dire.
Ah, non, c'est ça. Puis ils me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit, c'est rare là, qu'on vit ça, là, dans le sens que c'était quasiment un projet clé en main. Au début, ouais. Là, j'avais presque la folie de dire, on peut-tu publier cet automne? Puis eux autres, ils me disaient, non, hey, wow, tu sais, ça va trop vite, là. Nous autres, on allait te proposer à l'automne 2021. Moi, je disais, non, tu sais, je le sens pas, là. Il y a eu la pandémie, puis le monde, ils vont avoir besoin d'entendre parler de hockey au printemps, puis... Je pense que, tu sais, février, faut faire ça en février. Et on dit, on va penser à ça, on t'en revient, puis tout ça. Puis ça s'est fait hyper rapidement. Tu sais, tout s'est enclenché super, super rapidement. Puis après ça, on a travaillé sur la préface, puis sur la cahier photo, puis tout ça. Mais c'est ça. Ouais, effectivement, je pense que tu as raison. Je pense pas qu'il se serait lancé dans un projet comme celui-là sans que le projet soit assez concret devant eux. Moi, il était terminé. J'avais... Tu sais, je veux dire, ma bibliographie était faite, mon avant-propos était fait. Le projet, il était là, c'était quasiment ce livre-là. Bien, évidemment, pas mal moins bon que ça parce qu'on l'a bonifié dans les dernières semaines, dans les derniers mois, mais le projet, il était pas mal fait.
Diriez-vous, en fait, les deux, diriez-vous que la pandémie amène un certain intérêt, justement, pour des activités comme la lecture? Je veux dire, tout le monde lit, mais je veux dire, un intérêt particulier pour lire des bios comme ça à cause de la pandémie. Les gens sortent moins un peu. Il y a un bon timing pour la rédaction de livres comme ça?
Mais moi, je l'ai vécu dans le premier confinement. Mon livre sur le Jean Ferré en français est sorti au mois de juin. Donc, on sortait à peine du premier confinement. Et ce qu'on a remarqué, c'est une hausse marquée dans les livres, l'achat de livres numériques. Le Québec n'était pas encore passé à l'ère numérique au niveau des livres. En tout cas, pas dans les masses. Moi, je le voyais dans le même livre en anglais et en français. Le livre numérique se vendait beaucoup mieux en anglais qu'en français. Et là, on a vu, en tout cas, mes éditeurs me disent qu'il y a eu une grosse différence. Et les gens aussi ont acheté beaucoup en ligne. Au Québec, là, on est choyé là-dessus. La pandémie a permis à cette industrie-là de quand même faire des belles ventes au point que certaines compagnies ont... La pandémie les a pas trop affectées. Et de mon côté, ben autant au niveau anglophone que francophone, le livre sur le Jean Ferré a été un succès sur toute la ligne. Autant... ou presque s'il n'y avait pas eu là, la pandémie. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, les gens se cherchaient des activités, lire, tu sais, en quelques clics sur Amazon ou sur le site de Renaud-Bré ou Archambault au Québec, tu peux te commander un livre qui arrive quelques jours plus tard chez toi. Tu n'es pas obligé de sortir. C'était comme la façon de procéder, la meilleure façon de procéder en temps de pandémie. Et je pense que les gens en ont profité, puis c'est tant mieux. Puis là, ben toi, mec, tu sais, aussi, tu le sors à un moment où, ben en plus, il y a un couvre-feu. Donc, à partir de 8 heures, les gens ont même juste ça à faire lire, tu sais. Donc, c'est encore mieux, je pense.
Ça a l'air que demain, François Legault, il va dire, allez à 8 heures chez vous, puis vous lisez Michael à l'ancienne. Non, non.
Je te le souhaite.
Ça serait bon, hein? Ça serait pas mal bon. Ça
serait vraiment bon, en fait. Pat, t'as parlé de bon, comment que les habitudes de lecture étaient différentes du côté anglophone, francophone, ben, au Québec en particulier. Est-ce que, Michael, c'est quelque chose que t'as pensé de peut-être sortir le livre en anglais? Parce que si ma mémoire est bonne, bon, à l'époque où ce que Georges Vézina jouait, beaucoup, beaucoup d'anglophones qui suivaient le Canadien de Montréal, donc des petits-fils et des arrière-petits-fils qui ont probablement connu par leur grand-père tout ça, l'époque de Georges Vézina. Est-ce que c'est quelque chose que t'entrevois ou...
Ben, moi, j'ai malheureusement pas l'anglais de Pat, fait que je peux pas me lancer dans... Ce sera pas moi qui va l'écrire. C'est ça, ben, qui va le traduire, c'est-à-dire. Moi, dès qu'on a échangé, la maison d'édition et moi, c'est quelque chose que j'ai dit tout de suite. Parce que moi, j'étais fasciné de voir à quel point il intriguait beaucoup les anglophones. Mm-hmm. Puis les journalistes anglophones, les chroniqueurs de cette époque-là soulignaient beaucoup dans les journaux que malheureusement, tu sais, l'anglais de Vézina lui permettait pas d'être connu, lui permettait pas d'exprimer peut-être quoi qu'il parlait pas, même en français, il parlait pas beaucoup, mais c'était noté vraiment dans les journaux. Fait que je pense que, puis tu sais, tu vas sur Internet, il y a presque plus de, il y a pas mal bien. Ça, c'est par la loi du nombre, mais quand même, tu le sens, il y a beaucoup d'intérêt chez les anglophones pour Vézina. Puis même dans les derniers jours, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes, d'anglophones qui me disent « Hey, tu vas-tu le traduire? Parce que nous, on va vouloir l'acheter. Ah, » Fait cool. Qu'il y a de la demande, j'en ai discuté avec la maison d'édition. Tu sais, je pense que dans le fond, si je suis un succès en termes de vente comme Pat avec ses livres, je pense qu'il y a des chances que ça soit traduit. Puis on verra. Écoute, moi, c'est sûr, je le souhaite là, du plus profond de mon cœur parce que ça lui donnerait encore plus de visibilité, plus de lumière. Puis, ça compléterait ma démarche de dire, je veux qu'on arrête d'y aller sur les mythes de Georges Vézina. Là. On peut s'en tenir comme au fait. Puis, on peut débattre, puis on peut interpréter différentes affaires. Mais j'aimerais ça qu'on arrête de... Ben, justement, de perpétuer des erreurs du passé qui ont été un peu commises sur lui. Donc, ça serait vraiment un bel honneur pour moi, mais ce ne sera pas moi qui va le traduire, ça, c'est sûr.
La façon dont ça fonctionne habituellement, c'est que la maison d'édition a les droits sur les versions dans d'autres langues. Donc, ça prend un éditeur anglophone qui est intéressé. Souvent, entre maisons d'édition canadiennes, en plus, il y a des... c'est plus avantageux financièrement de faire ça. Donc, je te le souhaite parce que toi, il y a un site web qui est en fait plusieurs historiens sur le hockey qui sont abonnés, le S-I-R-H. Donc, Michael et moi, on est tous les deux abonnés. Puis, je parlais à un de ces membres-là il y a quelques jours qui fait aussi de la lutte, qui est beaucoup impliqué au niveau de la lutte. Et je lui parlais justement de ce livre-là en disant « J'espère qu'il va être traduit en anglais pour que tu puisses justement le lire parce que tu vas trouver ça fascinant. » Et évidemment, comme Michael le disait, par la loi du nombre, il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup de journalistes anglophones aussi, beaucoup de fans de hockey qui vont vouloir en apprendre davantage sur Georges Vézina. Tu sais, ici, c'est peut-être plus spécial parce que, bon, c'est un gars local. J'imagine qu'au Saguenay, tu vas en vendre... ça va se vendre autant que la grosse bière là-bas. Là.
J'en reviens de là, là, puis je te dis que, oh boy, c'est en feu là-bas. Là. C'est complètement fou. C'est hallucinant. C'est ça. Moi, je pensais que je m'étais pris trop de livres. Ouais. J'en ai plus. Je dois recommander tellement que j'ai tout vendu.
Wow!
Ben, c'est parfait, ça. Fait que, tu sais, j'espère vraiment que les fans et le milieu du hockey anglophone, tu sais, le camp de la renommée à Toronto, on ne sait pas plus sur Georges Vézina que Michael en ce moment-là. Mm-hmm. Donc, c'est important qu'il soit au courant qu'il soit à jour, qu'il soit au courant de pourquoi Georges Vézina est si important pour leur sport à eux. Puis juste pour ça, je pense que c'est important que ce livre-là soit traduit. Espérons qu'une maison d'édition s'y intéresse.
Exact. Pat, pourquoi? Parce que, tu sais, on a parlé au début du show, t'as parlé qu'il y a eu un gros mouvement pour le retrait du chandail d'Émile Butch-Bouchard et tout ça, à une certaine époque. Pourquoi c'est ce joueur, ce tome-là, en fait, parce que c'est un grand capitaine, c'est une légende, pourquoi c'est si compliqué d'avoir de quoi sur lui, en fait? Tu sais, comme là, le retrait du chandail, ça a pris une croisade incroyable dans les médias. Toi, tu vas faire un livre sur sa vie et tout, mais pourquoi il n'y en a pas déjà eu alors que il est reconnu comme une légende, alors que, tu sais, par exemple, Georges Vézina était plus réservé, tout ça, était moins flamboyant, etc. Comment t'expliques ça au niveau pour M. Bouchard?
Ben, Émile Bouchard a eu la joie ou le malheur de jouer à l'époque où Maurice Richard jouait également. Donc, c'est
Maurice
sûr que...
qui t'a dit?
Oui, c'est ça, Richard, exactement. Okay, ouais. Le frère d'Henri. Le
ah oui, Henri, OK.
Internet va planter, d'après moi. Là.
Donc, ça fait en sorte que, veux pas, toute la place a été prise, historiquement parlant, par Maurice Richard. Et par la suite, ben, c'est vraiment là qu'on a vu des Québécois francophones avoir du succès avec le Canadien de Montréal. Et Michael en parle aussi dans son livre. Tu sais, à l'époque, de Georges Vézina dans les débuts du club. Il y avait beaucoup de franco-ontariens, de franco-canadiens, mais il n'y avait pas nécessairement beaucoup de Québécois francophones qui étaient des vedettes avec le club. Vézina était la plus grande, mais tous les autres noms à connotation francophone, oui, ben c'était souvent pas des Québécois. Et là, dans les années qui ont suivi la retraite d'Émile Bouchard et évidemment celle de Maurice, ben là, c'est là qu'on a vu là, vraiment une explosion de vedettes. Là. Ça a été les Béliveau, les Geoffrion, Henri. Puis je dis vedettes, mais aussi à un moment donné, je pense qu'au début des années 60, la moitié, c'est pas plus, du club était Québécois francophone. Talbot, Goyette, Rousseau, etc. Donc, mais à l'époque, c'est comme si toute cette montée-là de Québécois avait comme mis dans l'ombre un peu l'héritage d'Émile Bouchard, parce que lui, quand il arrive avec le club en 1941, il y en a trois Québécois francophones avec le club. C'est tout. Maurice n'est pas encore arrivé. Maurice arrive l'année d'après. Mm-hmm. Donc, ça a été vraiment le premier de cette gang-là. Et quand il prend sa retraite 15 ans plus tard, mais là, c'est là qu'on voit la poussée. Puis Émile a eu beaucoup à voir avec ça. Et évidemment, avec Maurice, qui est devenu cette vedette plus grande que nature-là, il ne faut pas l'oublier. Mais Butch était vraiment le capitaine, c'était le leader de cette équipe-là. Mais je pense qu'il a été un peu mis dans l'ombre à cause de Maurice et à cause des autres Québécois francophones qui sont venus s'ajouter par la suite. Et là, ensuite, ben les années 70 sont arrivées avec Lafleur et compagnie. Ensuite, Roy. Bon, puis ça presque plus jamais arrêté, à part présentement où il y en a un peu moins. Là, on se retrouve un peu dans les années 40 là, au niveau québécois dans le club. À tort ou à raison, c'est pas à moi de juger ça. Mais au final, je pense que c'est une des raisons qui explique là, pourquoi Butch a été un petit peu dans l'ombre. Malheureusement, mais par contre, il a été intronisé au Temple de la Renommée. Là, je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas reconnu sa carrière. Mais chez les Canadiens, je pense que ça a été un peu plus difficile à convaincre. Puis, Michael va avoir le même défi dans un certain sens avec Georges Vézina. La seule différence, c'est que le numéro est déjà retiré. Donc, dans le fond, c'est un effort qui est... Je veux dire, c'est vraiment un effort, tu sais, de faire une soirée hommage à Georges Vézina, d'inviter les petites filles, les petits-fils, toi, et juste de monter une bannière. Tu sais, je me dis, bon, on perd pas un numéro de plus, là. Tu sais, parce qu'on voit qu'à un moment donné, il faut qu'il en reste des numéros, là. Là, dans le cas de Georges, il y en a pas. Tu sais, Butch, tu sais, c'était c'était un numéro qu'il fallait retirer, tu sais, donc c'était peut-être un peu différent à ce niveau-là. Mais l'important, c'est qu'on y soit arrivé, puis, tu sais, moi, je vois ça d'un autre côté. Ça a permis à une nouvelle génération de fans de savoir qui est Butch Bouchard. Mm-hmm. Parce que au tournant des années 2010, il y a tellement eu un battage médiatique pour que son chandail soit retiré, qu'il y avait des articles de journaux, il y avait des reportages, il y avait un paquet de choses, que le jeune fan, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte qui suivait le Canadien s'est probablement intéressé davantage ou en a appris davantage sur une légende comme Butch Bouchard. Et ça, je trouve que c'est super important. Puis là, moi, j'arrive 10 ans après avec un livre. Donc, les gens savent déjà. Tu sais, moi, j'ai un de mes collègues, il a fin vingtaine, il est né en Afrique, il est arrivé ici à l'adolescence, gros fan de hockey, son frère a joué pour les Remparts de Québec, grosse famille de hockey, et quand je lui demande « Est-ce que tu sais c'est qui Butch Bouchard? » Il dit « Ben, voyons Pat, c'est sûr que je sais c'est qui. » Mais c'est à cause de ça, là, c'est à cause de 2009 qu'il sait c'est qui. Ouais. Tu sais, et ça a été important. Fait que, tu sais, c'est peut-être un mal pour un bien en bout de ligne, tu sais.
Est-ce que c'est plus difficile de sortir de l'information que les gens connaissent pas, tu sais, alors que on voit Émile Bouchard dans le film sur Maurice Richard, on voit, tu sais, il y a certains ouvrages ou certains trucs qui étaient plus médiatisés un petit peu que Georges Vézina, par exemple. Est-ce que c'est plus difficile de sortir des trucs que le monde connaisse pas à propos de lui?
Non, je pense pas que ça va être plus difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens savent pas. Beaucoup de l'importance que Butch a eue dans l'équipe, ça a été dit, mais jamais en détail. Je pense que toute l'après-carrière de Butch est aussi fascinante. M. Bouchard était président des Royaux de Montréal, l'équipe de baseball. Jackie Robinson ne jouait pas ou pas à l'époque de Jackie. Il a quand même été président. Il a été en politique. Il y a eu un restaurant sur la rue de Maisonneuve qui a été hyper populaire. Donc, il y a beaucoup de choses à dire autant sur sa carrière que sur son après-carrière. Donc, tu sais, j'ai écrit un livre sur le géant ferré qui avait été tellement plus médiatisé et on a été capable d'aller chercher de l'information nouvelle. C'est sûr que je vais aller chercher de l'information nouvelle avec Butch. Puis tu sais, l'information est sortie des fois, ou certaines informations sont sorties au fil des années, mais là, c'est de la condenser, c'est de la mettre dans un certain ordre, de la donner en racontant une histoire autour. Donc, c'est de la présenter d'une toute autre façon aussi. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement un défi.
Cool, super intéressant. Deux dernières petites choses, les gars, je ne veux pas vous garder toute la soirée, même si Pat, je sais qu'on peut faire 2 heures. Michael, la préface du livre L'habitant silencieux, on dirait que j'ai tout le temps, je vois tout le temps le manquer, mais je l'ai.
Le concombre de Chicoutimi.
Le concombre de Chicoutimi, oui, c'est ça. La préface est signée par Patrick Roy. Comment que tu arrives avec ça en disant à Patrick Roy, j'aimerais que tu fasses la préface du livre?
Ben, écoute, moi, il n'y avait pas 1000 personnes pour signer cette préface-là. Tu sais, c'est un livre qui est niché. Puis, tu sais, évidemment, personne ne le connaît qui est en vie en ce moment. Donc, on a réfléchi à la question. Pour moi, Patrick Roy, c'est le meilleur gardien de l'histoire du hockey. Alors, moi, je me suis dit, si j'ai à prendre le meilleur, ben, on va y aller avec le meilleur. Donc, il y avait Patrick. Puis, il y avait des petites, je dirais pas similitudes, mais des liens qui les unissent. On ne savait pas à ce moment-là qu'ils sont à 4 générations. Donc, il y a un lien de parenté à 4 générations. Ça, on avait
c'est, ça. C'est là, 9 générations de mieux que Pat avec, avec son ancêtre qui a joué pour les Rangers.
C'est ça. Fait qu'en tout cas, ça, on ignorait ça. Puis, lorsque je lui ai posé la question, moi, ma crainte, là, pour être ben franc, je me suis dit, hey, il a tellement vécu des soirées d'enfer au Centre Georges Vézina dans la rivalité Québec-Chicoutimi. Il va dire non. Il va dire, moi, Georges Vézina, c'est assez, là. Il a assez vu de ça. Puis, non, écoute, il a été super. Tu sais, moi, j'ai développé une belle relation de respect avec lui dans mes années de couverture de hockey junior. Mm-hmm. Fait que ça, tu sais, il a été généreux avec moi dès le jour 1 que je suis arrivé sur la couverture, puis moi, j'ai toujours apprécié ça. Je pense que j'ai toujours fait les choses de la bonne façon avec lui. Puis, c'est quelqu'un qui sait reconnaître les gens justes, les gens fair. Puis, lorsque je lui ai proposé d'écrire la préface, il a dit oui tout de suite. Moi, tu sais, c'était vraiment, j'ai pas eu besoin là, de revenir à la charge puis de dire demander une deuxième fois puis une troisième fois. Ça s'est fait rapidement, ça s'est bien fait. Puis, quand on a reçu la préface, on a fait, OK, c'est ça. C'est carrément ça. Ça a même dépassé le niveau qu'on s'attendait. Tu sais, on avait échangé sur quelques paramètres. J'avais dit, tu sais, tu peux parler notamment du fait que Vézina a gagné les 2 premières Coupes Stanley, toi les 2 plus récentes. Je ne dirais pas les 2 dernières parce que ça va miner le moral des troupes. Après ça, ben Vézina gaulait debout, Patrick Roy, tu sais, on a connu son style papillon et tout ça. Donc, tu sais, il y avait différentes affaires. Puis, évidemment, puis Pat, je pense que tu étais en mesure de le lire dans le livre, mais les deux, ce sont des gagnants. Puis Vézina, même s'il ne parlait pas beaucoup et tout ça, tu le sens dans à peu près tout. T'sais, il n'aime pas la défaite, il veut rebondir chaque fois qu'on a eu l'impression qu'il a été moins solide ou moins bon qu'à l'accoutumée. Donc, il y avait plusieurs liens qui les unissaient qui me fait dire, je vais y aller avec Patrick. Puis c'est drôle parce que là, je viens de passer quelques jours au Saguenay. Puis les gens me disaient, ton livre, là, on l'aime, mais la préface, là, tu pouvais pas. Non, tu sais, c'est un plus une blague, mais c'est sûr que Patrick Roy au Saguenay, ça fait quand même réagir. Mais non, les gens apprécient qu'il ait eu l'attention de signer cette préface-là.
Au Saguenay, il aurait voulu Félix Potvin.
Ouais, j'imagine.
Ou Richard Martel.
Ou Marc Denis, ou un ancien des Saguenayens, là.
Ça aurait été bon. Hey, merci, les gars. Pour terminer, où est-ce qu'on peut commander? Parce que je pense que ton livre, Michael, est en précommande en ce moment. Donc, où est-ce qu'on peut se procurer ça? Puis, Pat, toi, c'est quoi tes délais? Ouais, quand est-ce que tu penses que ton livre va sortir à ce moment-là?
Je vais laisser Michael,
vas-y, Michael.
Débuter. Là, son livre sort bientôt.
Ben, écoute, Pat, il va comprendre ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'était la première fois que je recevais un message d'une personne qui est allée en librairie puis, pour acheter le livre et elle l'a eu. Alors moi, je comprends, je ne sais pas pourquoi. C'est-tu fréquent, ça, Pat, que les gens peuvent
acheter les livres? Les librairies, des fois, vont sortir quelques jours avant la date officielle. S'ils voient qu'il y a déjà un battage médiatique autour et qu'ils ont reçu les livres, ben, okay, ils vont en profiter puis ils vont les mettre des fois plus rapidement sur les tablettes.
Okay, ça peut arriver. OK, parfait. Ben, en tout cas, fait que, bref, c'est ça. Sinon, ben, leslibraires.ca puis toutes les grandes librairies. J'espère que ça va bien se vendre. Puis c'est le fun. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour parler de ça ce soir. C'est le fun. Puis c'est vrai qu'on pourrait continuer encore pendant des heures parce que on aime ça. Là, fait que c'est belle fun.
Le livre est disponible en version numérique, Michael?
Oui, puis on est en train de travailler sur une version audio.
Audio.
Ça, c'est cool. Ah, cool.
On devrait avoir quelque chose de le fun par rapport à annoncer par rapport à ça bientôt.
Bon, excellent, ça, excellent. Moi, de mon côté, écoute, Simon, les délais, faut que j'aille terminer le livre par la fin janvier 2022. Okay. Et la sortie du livre est prévue pour l'automne. Cool. 2022. Donc, en espérant que rendu là, on puisse faire un lancement.
Je peux pas croire qu'en l'automne
2022, ça ne sera pas possible. En tout cas, j'ai dit ça une couple de fois à date, fait que je vais faire attention, mais
comme j'ai dit, Pat, sur ma page Facebook, plutôt, parce que Michael, je ne sais pas si tu savais que j'étais humoriste, là, je ne t'en ai pas parlé quand je t'ai approché.
Non, mais je me suis renseigné quand même, j'ai fait mes devoirs, là. J'ai pas cherché sur le site de la Bibliothèque nationale, mais j'ai quand même googlé.
T'aurais pas trouvé grand-chose,
D'ailleurs, bonne fête, Simon. C'était pas ta fête aujourd'hui ou hier?
Hier.
Bonne fête en fête.
Ouais, merci, c'est gentil. Mais c'est pas là que je m'en allais avec ça. Je m'en allais dire, j'ai dit que j'allais faire un gros party justement pour mes 40 ans l'année prochaine. Si on pouvait arrêter de manger du pangolin cru ailleurs sur la planète. Donc, c'est ça. Donc, on va voir où est-ce que ça va. Mais je te le souhaite, Pat, que tu puisses faire un lancement à ce moment-là.
Ben c'est ça. Donc, le but, ça serait ça, à l'automne 2022, c'est un petit peu avant Noël, juste avant pour le Salon du livre de Montréal, en espérant qu'il y ait un Salon du livre de Montréal également. Donc voilà. Sinon, ben tous mes autres livres sur la lutte, dont Le Géant Ferré, là, ben, sont disponibles sur les sites de Marchambault, Renaud-Bray, Amazon.ca, en librairie également. Puis, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook et Twitter, @PatLaprade.
Ah, merci les gars, c'était vraiment le fun de vous avoir. Belle découverte pour moi, Michael. Super sympathique, super le fun de te jaser. Pat, on s'était déjà jasé. Puis je sens que c'est pas la dernière fois qu'on se jase de toute façon. Puis Michael, je risque de te réinviter aussi. Donc,
je vais essayer de pas être en retard cette fois-là. C'est pas de ma faute, hein, vous le savez.
Ah ouais, mais c'est pas grave, moi, ma première fois au show à Simon, j'ai manqué d'électricité vers la fin du podcast. Fait que regarde-toi, ça s'est bien passé malgré ton retard. Fais-toi ça pas.
Ah ouais, effectivement. Écoutez, les gars, juste en terminant, votre livre que vous aimeriez écrire sur n'importe qui, même si ça a déjà été écrit, tout ça, ce serait qui, par exemple?
Oh, c'est une bonne question.
Ouais.
Autre que ceux que vous avez déjà écrits, là, tu sais, dans ton cas, Pat, et toi aussi, Michael.
Moi, je dirais, j'en ai plein, là, mais pour avoir travaillé avec, parce que je l'aime beaucoup, Mike Bossy.
Ah ouais, hein?
C'est intéressant.
Bon
c'est
choix.
Drôle.
Très bon choix.
C'est drôle. Je vais faire un lien avec la lutte parce que Mike Bossy, lorsqu'il jouait junior, le propriétaire de l'équipe, c'était Johnny Rougeau, qui était un ancien lutteur et évidemment un des patriarches de la famille Rougeau. Moi, c'est plus du niveau de la lutte, ça serait Kevin Owens,
qui nous représente
tellement bien à la WWE. Donc, cool. Je pense que ça va se faire un jour, mais bon, on n'est pas rendu là, sa carrière n'est pas encore terminée. Mais je pense que ça serait bien.
Ah, c'est cool, j'aime ça. J'aime, puis je suis content de vous avoir eu ensemble sur le show parce que vous partagez, tu sais, justement la passion, mais aussi, tu sais, le développement d'une idée puis sortir le livre, tout ça. Donc, c'était vraiment cool. Vous étiez complémentaires pour vous dire sur le podcast. Donc, merci les gars, puis à bientôt, puis bon succès avec vos livres.
Merci. Ben, merci, Simon. Bye-bye.
Salut, les gars. Merci. C'était Pat Laprade et Michael Lancette. Donc, le livre de Michael qui est déjà disponible. On l'a appris par la bouche de Michael, justement. Certaines librairies qui l'ont déjà. Sinon, il est en précommande un petit peu partout. Donc, ça s'appelle « L'habitant silencieux », un livre sur la vie de Georges Vézina. Et Pat, qui est en train d'écrire un livre sur la vie de Émile Butch-Bouchard, un des plus grands capitaines de l'histoire du Canadien de Montréal. Et ça va sortir en 2022. Donc, super intéressant. Donc, on a parlé de hockey. Là, je ne sais pas c'est combien la game canadien-sénateur. Ça allait mal, puis je pense que ça s'est replacé. Je pense que c'est encore 3-3. En tout cas, si vous avez le score, textez-moi. Merci d'être là, tout le monde. Puis là, on parle de balle. On parle de baseball parce que moi, je l'ai déjà dit, ça fait une couple de semaines sur le podcast. Moi, j'étais un fan de baseball fini. Quand la saison, justement, quand autour de ma fête, le 22 février, ça arrive, là, je le sais que c'est le début des camps dans le baseball majeur. Puis là, ça me fait capoter. Ben, je le sais qu'à Sportsnet, ils vont parler de ça 24-7. Là, un petit peu moins depuis les dernières années parce qu'ils ont eu les droits de diffusion des matchs de la Ligue nationale de hockey. Donc, ils ont ralenti un petit peu sur leur couverture baseball à travers, mais c'est quand même la belle période de l'année où est-ce qu'on parle de balle. Puis, qui de mieux placé que la gang de Passion MLB donc pour en jaser avec, entre autres, Charles-Alexis et Pascal qui sont avec nous ce soir. Salut les gars, comment ça va?
Salut Simon, ça va bien?
Ouais, ça va top shape, les gars. Moi, je t'ai calé un petit peu à la dernière minute, Charles, parce que j'étais pas certain si on le faisait ce soir ou si je te gardais pour la semaine prochaine. Puis là, j'ai dit, ben, c'est commencé. On n'a pas le choix. Faut parler de balle. J'ai vu des images un peu partout. On n'a pas le choix. Faut en parler. Je sais pas si vous êtes fébrile autant que moi, mais tu sais, au-delà de vos tâches avec Passion MLB, vous êtes des fans de baseball finis, c'est certain. Est-ce que vous avez cette même fébrilité que moi quand on arrive à cette période de l'année?
Ben moi, je vais t'avouer que j'ai toujours aimé, évidemment, l'arrivée des camps d'entraînement. Là, ça fait quelques années que je suis le baseball plus sérieusement. Là, avant, je ne le suivais pas tant jusqu'au camp d'entraînement. Puis en 2018, j'ai eu la chance d'aller en Floride avec mon père faire un voyage de camp d'entraînement, faire quelques stades de camp d'entraînement. Et là, 2019, 2020, 2021, ça fait 3 printemps de suite que j'ai les Blues. Et là, je regarde les images de ce qui se passe présentement du côté de la Floride, de l'Arizona. Et j'aimerais tellement ça y retourner. Puis j'aimerais ça être là dans cette ambiance-là qui est unique. Hein, une ambiance de camp d'entraînement, c'est pas comme au hockey où tout le monde est dans sa ville. On s'affronte un peu, on s'en va affronter Ottawa, on va jouer une game à Québec. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment un mode de vie en Floride, en Arizona, au chaud, avec plein de petits stades qui t'appartiennent, où tu es installé en tant qu'équipe. C'est vraiment un beat qui est complètement différent de ce qu'on voit d'habitude, puis moi, ça me fait vraiment capoter.
Même chose de ton côté, Pascal?
Ben, de mon côté, Simon, tu as reçu deux personnes qui écrivent, là, qui sont auteurs, donc on parle de livres. Moi, ce qui éveille ma passion pour le baseball à ce temps-ci de l'année, c'est quand les revues papier commencent à sortir dans les tabagies, puis qu'on peut aller acheter ces revues-là pour regarder un peu l'état des forces dans chacune des équipes. Moi, je suis encore très attaché au papier, même si on est à l'ère de l'électronique. C'est sûr que nous, avec les gars de Passion MLB, ben en fait, l'équipe de Passion MLB, parce qu'il y a le côté féminin aussi là, qui est avec nous, on est à plein temps sur l'électronique, mais n'empêche que pour moi, quand l'entraînement, revue, papier, l'odeur de l'encre, ça m'éveille encore la passion.
T'sais, pour nous autres, qu'il y a une seule équipe au Canada qui joue dans un stade fermé, avec un toit rétractable, mais quand même dans un stade fermé, le fait de voir du monde en chemise hawaïenne à Dunedin en Floride, là, ça a un petit côté folklorique, tout ça aussi en même temps. George Springer, on va y aller tout de suite avec les Blue Jays, les gars. C'était-tu pas beau de le voir avec son beau saut des Blue Jays? En tout cas, moi, j'ai eu une petite émotion. Là. Je ne sais pas si c'est pareil de votre côté.
Oui, j'ai vraiment aimé. Déjà, on le voit qu'il travaille avec les jeunes. Oui, il a pris des élans, mais j'ai vu des photos passer là, dans les dernières heures où on le voit travailler avec Teoscar Hernandez, avec Lourdes Gurriel Jr. Dans le champ à attraper des balles. Puis justement, ça va être ça l'impact d'un George Springer parce que oui, il va venir combler un trou du côté du champ centre. Oui, il risque, selon moi, d'être le premier frappeur de cette formation-là et de faire en sorte que tout le monde tombe dans sa chaise, mais il va aussi faire en sorte qu'un Teoscar Hernandez, qui a des difficultés défensivement, peut apprendre d'un gars comme Springer, qui peut être un bon mentor pour lui. Même chose pour Lourdes Gurriel Jr. Donc, l'effet Springer, si je peux dire, commence déjà à se faire sentir du côté de Toronto, puis dans une année qui est cruciale comme celle de 2021 pour une organisation qui est en plein essor, ben, ça peut pas être négatif.
c'est moi, Simon, juste le fait que ce gars-là se présente une journée d'avance, il embarque sur le terrain, la casquette, il est allé s'imprégner de c'était quoi cette nouvelle équipe-là pour lui, c'est quoi les Blue Jays. Il a quand même eu des années mouvementées au cours des dernières années avec les Astros. Il a très bien performé, mais là, j'ai hâte de voir vraiment avec les Blue Jays comment il va pouvoir changer cette équipe-là, comment il va pouvoir améliorer l'esprit de corps. Puis c'est sûr qu'il y a des bons joueurs. On a une très, très bonne relève. Mais de voir arriver un vétéran comme ça, je pense que c'est très, très bon augure pour la saison.
Est-ce qu'il peut à lui seul tout changer? Parce qu'il y a une culture de comment je pourrais dire, les jeunes, on a fait de la place aux jeunes, tout ça, la nouvelle organisation avec les anciens Indians, là, que moi je les appelle, toute la gang qui arrive là-bas. Est-ce que Springer vient comme donner de la crédibilité à cette jeune équipe-là dont il avait besoin par la force des choses?
Ben, j'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il vient tout changer? Non, parce que le problème sur le monticule, ça, il peut pas rien y faire. C'est pas un lanceur. Mais évidemment, le fait de venir justement stabiliser ce champ extérieur-là, ça peut aider. Puis on va y ajouter aussi l'ajout d'un Marcus Semien qui est arrivé dans l'avant-champ. On peut parler même du retour de Joe Panik là, sur les termes d'un contrat des mineurs, mais qui devrait faire l'équipe. Tout ça, ça fait en sorte que oui, évidemment, ça va passer par Guerrero, ça va passer par Bichette, ça va passer par Kevin Biggio, ça va passer par ces jeunes-là qui sont électrisants, mais quand même, ces gars-là ont besoin d'encadrement, ont besoin de gars qui ont gagné par le passé, qui savent par où passer, qui vont leur dire, regarde, vous êtes rendu en série l'an passé en 2020, c'est excellent, c'est un bon début, ça va t'aider à amener ton jeu au prochain niveau, puis juste un gars comme Bo Bichette, par exemple, dans les derniers jours, il a dit, je suis pas satisfait de ma fin de saison 2020, ben, il va être capable de construire sur ses performances, de voir ce qu'il n'a pas réussi à faire, de prendre son expérience en série et de l'amener au prochain niveau, donc oui, les vétérans sont là absolument pour ça, parce que sans eux, ce serait vraiment plus difficile.
Ben, moi, je pense que c'est le signal qu'on veut gagner, on veut gagner plus rapidement que prévu. Oui, les jeunes, ils sont prêts. Ils sont prêts à performer, mais ça demeure encore des jeunes, ça demeure encore fragile. Puis, tu sais, dans la division Est de l'Américaine, ben, on connaît la compétition, les Yankees, les Rays, les Red Sox. Les Red Sox, je veux dire, ils vont être là. Donc, les Jays n'avaient pas le choix de cogner un gros coup. C'est Springer. Au départ, on visait Trevor Bauer pour venir solidifier le monticule, mais on ne dira pas qu'on se contente de Springer parce que ce gars-là... peut faire une différence. Tu disais, Simon, est-ce qu'il peut faire toute la différence? Charles-Alexis, naturellement, non. Mais il va venir un peu mettre du lustre sur quelque chose qui reste à polir encore en termes d'équipe.
Est-ce que c'est tôt, là, les camps commencent, la saison n'est pas commencée. Est-ce que les Blue Jays sont encore des contenders pour l'Est de l'Américaine, par exemple? Ou forcément, les Rays, les Yankees vont être devant eux autres?
Ben, je pense que les Yankees vont être au sommet de cette division-là. Moi, je pense que même les Yankees vont terminer au sommet de la Ligue américaine. C'est vraiment une grosse puissance, une grosse machine de baseball. Et si les lanceurs partant livrent la marchandise et qu'ils restent en santé, parce que c'est surtout ça le problème. Le Jameson Taillon, est-ce qu'il va être en santé? Corey Kluber, est-ce qu'il va être en santé? Est-ce que Luis Severino va revenir à pleine force? Moi, je pense que les Yankees, au premier rang, c'est leur poste à perdre. Vraiment, c'est une grosse puissance. Et j'ai l'impression que la vraie course va être entre les Jays et les Rays. Et je vais t'avouer, j'ai beaucoup de difficultés à départager ces deux organisations-là. J'ai l'impression, ceci dit, que les Jays sont en ascension et que les Rays, c'est un peu l'inverse. Oui, il y a eu la perte de Blake Snell et de Charlie Morton, mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression que ce qui va faire très mal aux Rays de Tampa Bay, c'est le fait qu'on passe de 28 à 26 joueurs. Cette année, on revient à un alignement un peu plus normal. Et on base vraiment notre stratégie du côté des Rays sur le fait que même si les lanceurs lancent 4 à 5 manches, on peut aller du côté de la relève. Là, il va y avoir un ou deux releveurs de moins dans cet enclos-là. Est-ce que ça peut faire la différence négativement pour les Rays de Tampa Bay? Moi, je pense que oui, je pense que ça peut les affecter. Mais d'un autre côté, tu me dirais que les Rays vont terminer devant les Jays et j'aurais pas de misère à te croire non plus. Là, tu sais, c'est tellement serré à ce niveau-là que les 19 matchs entre les deux équipes vont être vraiment cruciales.
Ben moi, je donne un léger avantage aux Jays pour la deuxième position dans la division parce que tu l'as dit, Charles-Alexis, les Jays ont bougé pendant la saison morte, ce que les Rays n'ont pas nécessairement fait. Ben, en fait, ils ont perdu des joueurs.
Oui, c'est ça. Ils ont bougé, mais négativement.
Pas dans la bonne direction. Ce qui fait que il y a une équipe qui a de l'énergie positive, il y a une équipe qui a peut-être plus d'énergie négative. Oui, ils ont perdu en série mondiale. Tu sais, tu es supposé d'avoir encore un certain momentum, mais il s'est passé tellement de choses dans cette série mondiale-là que je ne sais pas si le momentum est encore là. Ce ne serait pas surprenant de voir les Rays deuxième, de voir les Jays deuxième. Ça va être excessivement serré, mais je pense que si on pense que quelle différence Springer peut faire, il peut faire possiblement une différence entre la deuxième et la troisième position, mais le point d'interrogation chez les Jays, ça demeure au monticule, puis il y a un petit avantage pour les Rays à ce niveau-là, malgré les pertes qu'ils ont subies.
Écoute, j'ai pensé à toi, Charles-Alexis, parce que tout ce qu'on a discuté sur le podcast ensemble, quelques jours après, ça s'est tout réglé. Donc, Bauer a signé avec les Dodgers. Walker, qu'on parlait, que t'as fait, vous avez fait un article là-dessus aussi, super intéressant, sur est-ce que c'est lui la pierre angulaire, tu sais, puis c'était lui le target des Blue Jays et tout ça, c'était super intéressant. Mais bref, tout s'est engrangé après qu'on ait discuté ensemble. Bauer avec les Dodgers, vous pensez quoi de ça? Est-ce que, puis tu sais, Charles-Alexis, on l'a avait dit, hein, on peut-tu prendre 162 matchs des Padres contre les Dodgers cette année? Go for it! Moi, je paye le streaming gros prix, puis j'écoute ces matchs-là à 10h30 le soir. Ça va me faire, ça va être incroyable. Donc, est-ce que cette guerre-là, là, tu sais, entre les Dodgers et les Padres, est-ce que ça vous allume, ça? Et ça va être incroyable, les rotations de lanceurs. Hein. À chaque fois qu'ils vont s'affronter, ça sera pas un pied de céleri sur le monticule, là.
Ah non, même quand ça va être le quatrième duel, même quand on va être rendu au quatrième, au cinquième lanceur de cette rotation-là, ça va être absolument incroyable. Puis pour moi, c'est les duels que je voudrais pas manquer. Là. Il y a 19 matchs que je veux pas manquer, puis c'est assurément ceux-là. Tu parlais de Trevor Bauer. Moi, mon questionnement, c'est de savoir est-ce qu'il va avoir trop de coques dans cette rotation-là, en ce sens où il y a 3 gagnants du Cy Young qui sont là. Walker Buehler peut même être le lanceur numéro 1 de cette équipe-là, même si c'est celui des 4 qui n'a pas gagné le Cy Young. Julio Urias qui est là, bon, comme 5e, mais est-ce que tout le monde va vouloir être vraiment le lanceur numéro 1? Est-ce qu'il va avoir des petites batailles à l'interne? Ça, c'est une question que je me pose. Mais dans l'optique où en saison régulière, on lance aux 5 jours, de toute façon, ça va être une force de frappe qui va être, mais pour les lanceurs, qui va être définitivement exceptionnelle. Puis Trevor Bauer vient renforcer cette rotation-là qui est probablement la meilleure du baseball majeur. J'ai hâte de voir l'impact qu'il peut avoir parce que Trevor Bauer est vraiment guidé par la victoire. On sait qu'il veut tout faire pour gagner. Là, il se retrouve au sein d'une organisation où on lui donne les moyens vraiment de réussir ce qu'il veut, c'est-à-dire se rendre jusqu'en série mondiale et en gagner une d'ici la fin de sa carrière. J'ai l'impression que ça va vraiment le motiver jusqu'au plus haut point qu'il va construire sur sa saison 2020. Et moi, je m'attends vraiment à des grosses performances parce qu'une fois que le contrat est signé, qu'il gagne 40, qu'il gagne 45 millions, qu'il en gagne 2, qu'il en gagne 3, le gars est sur le monticule. Le gars, il veut gagner. Puis c'est un bon coup des Dodgers dans l'optique où c'est un contrat à court terme.
Mais savez-vous quoi? Quand on regarde les deux formations, quand on regarde les rotations de partants, tu sais, Buehler, il pourrait être lanceur numéro 1 partout dans le baseball majeur ou à peu près. Là où ça peut se jouer dans cette série-là, puis ça va être des matchs de championnat à chaque fois, c'est dans les décisions de l'entraîneur. Puis là-dessus, tu sais, les petits impondérables pendant un match, changer ton lanceur au bon moment, envoyer un frappeur suppléant au bon moment. Puis là-dessus, Roberts, oui, l'année passée, c'était l'année des Dodgers, mais il n'a pas toujours pris des bonnes décisions nécessairement. Est-ce que ça va lui mettre énormément de pression? Parce qu'il n'aura pas le choix de performer à chaque match contre les Padres. Moi, je mets quand même les Padres avec une petite longueur, c'est-à-dire les Dodgers avec une petite longueur d'avance sur les Padres. Mais je pense que la pression est sur Roberts actuellement, puis il le sait très bien. Il faut qu'il performe de son côté aussi.
C'est un bon point que tu amènes en plus parce que l'année dernière, il y avait moins de décisions à prendre. En plus, il y avait le frappeur de choix du côté de la Ligue nationale. Là, vraisemblablement, on retrouve une formule plus traditionnelle où le lanceur va aller au bâton. Il va avoir plus de stratégie. C'est un bon point. Est-ce que Dave Roberts va être capable de réussir et de justement d'être en mesure de se réadapter à cette réalité-là? Ben, ça pourrait être essentiel durant ces matchs-là contre les Padres, c'est vrai.
C'est un bon point, ça. le frappeur désigné. Donc, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on y aille du côté du frappeur désigné universel. Avez-vous été surpris que on s'entend, là, le baseball, c'est pour les puristes, là. Donc, je suis pas tant surpris, mais en même temps, je le suis un peu, là. Je m'attendais qu'on y irait, là. Tu sais, c'était le moment pour le faire, probablement, là. Donc, si ça s'est pas fait pendant une saison, ben, tu sais, l'après-pandémie, whatever, ça se fera probablement jamais.
Non, moi, au contraire, j'ai l'impression que en 2022, c'est ce qui va arriver. Okay. Il va avoir le renouvellement de la convention collective et tout le monde disait cette date-là. Bon, 2020, ça a été, si tu veux, on va le dire entre guillemets, une erreur de parcours, en ce sens où on s'est adapté pour la pandémie, on s'est dit faut protéger nos lanceurs, on veut pas qu'ils soient sous-entraînés et qu'on les envoie frapper en plus, donc c'est pour ça qu'on s'est adapté.
Okay.
Et en 2021, bon, on pourrait encore l'implanter, il n'est pas trop tard. Évidemment, il commence à se faire tard, là, minuit approche tranquillement, pas vite pour ce dossier-là, mais la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, c'est que c'est un jeu de négociation. Les joueurs veulent pas assez donner pour recevoir, même chose du côté de la Ligue. La Ligue propose d'implanter le frappeur de choix, mais en retour de 8 équipes en série, et les joueurs ne veulent pas parce qu'on a l'impression que ça pourrait forcer les propriétaires à moins dépenser, à se dire, ben écoute, à 8 équipes, les Brewers ont fait les séries, les Astros ont fait les séries en jouant même pas pour 500, donc pourquoi les propriétaires mettraient la main dans les poches pour l'investir sur les joueurs? Donc c'est la raison pour laquelle les joueurs ont refusé, ils veulent un petit peu plus que ça, mais quand va venir le temps de rentrer dans les gros dossiers chauds de la convention collective de 2022, là on va avoir le temps plus amplement de s'attaquer aux frappeurs de choix, et ultimement c'est ce que la Ligue et c'est ce que les joueurs veulent dans la bonne mesure. Donc moi je m'attends à ce qu'en 2022 ça devienne permanent et que 2021 soit possiblement la dernière année où les lanceurs vont avoir la chance d'aller au bâton.
Super intéressant comme point. J'avais pas pensé comme ça. Les gars, moi, je suis humoriste, puis il y a des affaires qui me font plus rire que l'humour dans la vie. Puis quand j'ai lu que Bobby Bonilla, il va y rester un an à recevoir 1 million des Mets le 1er juillet à la fin du contrat de Fernando Tatis Jr., ça m'a fait plus rire qu'un show de Louis-José Hood.
C'est incroyable. T'sais,
c'est fou, hein?
Si on fait le comparatif au hockey, il y a eu le contrat de Rick DiPietro avec les Islanders. Bobby Bonilla, c'est mon Dieu. Tu sais, les Mets, ils en ont fait des...
Je ne pensais pas que je vous amènerais ça, là, c'est chaud, mais c'est ça.
Ça a apparu beaucoup dans les memes de baseball, là.
Ouais.
Quand Tatis a signé son contrat, puis on voyait toujours arriver la photo de Bonilla en arrière-plan. Mais écoute, il y en a des aberrations dans le sport professionnel, puis je pense que les Mets ont été reconnus pour en faire plusieurs au cours des dernières années.
Ouais.
Ben, en fait, au cours de plusieurs années, là, ça s'est amélioré un petit peu, mais avec le propriétaire actuel, il ne faudrait pas se surprendre de voir de drôles de choses là, pour les prochaines saisons, je pense, du côté de New York.
Je l'ai dit sur le dernier podcast avec Charles-Alexis, les Mets, c'est l'équipe qui réinvente la façon de perdre. Fait que, ils sont favoris, là, ils ont une bonne équipe cette année, tout ça, ça ne m'étonnerait pas que ça... Écoute, des voix dans la cave, pareil. Là, donc. Mais bon, ça, c'était le côté plus funny un petit peu, mais qu'est-ce que vous pensez du contrat de Fernando Tatis Jr., 14 ans, 340 millions, hein?
Ben moi, j'aime ce contrat-là pour les Padres, et c'est une gestion du risque.
Il va faire juste 1 million la saison prochaine, hein? Je pense que le contrat est construit comme ça, hein?
Oui. Exact. Ben moi, quand j'ai vu ce contrat-là de 340 millions sur 14 ans, je savais que c'était pas divisé 24 millions pendant 14 ans.
Voilà.
Parce que dans le fond, ce que les Padres ont fait, les Padres et le clan du joueur, ils se sont assis, ils ont dit pour les 14 prochaines années, si tu continues au rythme auquel on croit que tu vas continuer, voici combien tu devrais gagner en 2021 à une époque où tu n'es même pas encore admissible à l'arbitrage. Voici combien tu devrais gagner en 2022, 2023, 2024 à l'époque de l'arbitrage. Après la saison 2024, tu vas obtenir ton autonomie. Et là, on t'achète tes 10 premières années d'autonomie à un prix un peu plus important. Donc, moi, je le vois vraiment comme deux contrats différents. Je le vois comme un contrat de 4 ans, 34 millions de dollars. Et je le vois atteindre son autonomie et signer un contrat de 10 ans évalué à 306 millions de dollars, ce qui dépasse le 10 ans, 300 millions de Manny Machado. Donc, vraiment, les Padres ont pris le risque que Fernando Tatis Jr. va continuer à ce point-là, mais ils ont aussi pris un risque positif en ce sens où s'il avait été vraiment meilleur qu'on l'imagine, et je te dis n'importe quoi, mais il gagne 4 titres de MVP dans les 4 prochaines années, il atteint l'autonomie, On ne sait pas, le baseball va être où dans 4 ans, mais est-ce qu'à ce point-ci, il aurait commandé un contrat de 500 millions sur 10 ans? Je ne te dis pas que c'est ce qui va arriver, mais peut-être qu'éventuellement, ça aurait été ça, les prix pour les joueurs vedettes du baseball, parce que ça aurait augmenté pour une raison ou une autre. Donc, les Padres s'assurent de l'avoir à un prix qui visiblement faisait leur affaire parce qu'ils ont accepté de signer le contrat. On s'assure de jamais passer en arbitrage avec lui. On s'assure vraiment qu'il passe toutes ces belles années du côté de San Diego. Et visiblement, ils ont senti qu'il y avait les moyens. Ils ont senti qu'il allait leur rapporter assez aussi parce que c'est un joueur qui est exubérant et qui permet d'aller chercher des revenus par la vente de chandail ou par son exposition sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce risque-là parce que oui, c'est un risque, compris les Padres avec Tatis Jr.
Mais c'est quand même incroyable parce que l'année passée, quand il performait, tout le monde se demandait comment ça se fait que ce gars-là n'a pas signé une prolongation de contrat encore. Comment ça se fait que les Padres ne se sont pas protégés? Bien, Charles-Alexis, tu le dis, il était en train de calculer tous ces aspects-là. Il était en train de voir la carrière, comment la carrière de Tatis allait se dérouler. Puis moi, je pense qu'effectivement, c'est un bon contrat pour les deux équipes. Parce que oui, c'est un salaire moyen de 24 millions, mais comme tu le dis, Charles-Alexis, il ne faut pas le voir comme ça. Parce que pendant les premières années, tu sais, il va gagner, oui, 1 million, mais après ça, ça va se transformer plus entre 5 et 25 millions sur une période déterminée. Puis pendant cette période-là, il y a énormément de joueurs qui vont gagner plus cher que lui là,
oui,
par année. Puis c'est juste à partir de 2029, quand il va atteindre 30 ans, qu'il va gagner 36 millions par année. C'est là qu'il va comme avoir un step qui va se passer. Mais une blessure, un changement d'orientation, je veux dire, il y a quoi qui se passe dans sa carrière, c'est toujours un risque. Mais en même temps, quand tu as un joueur de ce calibre-là dans ta cour, ben, tu n'as pas le choix. Puis ce que j'aime des Padres, c'est que oui, Tatis, c'est un joueur en particulier, mais regardez comment ils ont développé l'équipe au cours des dernières années, comment ils se sont améliorés dans les filiales, puis comment ils sont devenus une équipe qui produit du talent et non pas qui essaye de frapper le coup de circuit là, au niveau des joueurs autonomes. Oui, cette année, ça a été particulier au niveau des lanceurs, là, vous me direz, mais n'empêche que la concession de San Diego est passée à un autre niveau là, de façon évidente.
Mais encore une fois, même tu parles des lanceurs, puis ça continue dans la veine que tu disais, parce que c'est pas des signatures à coups de millions de dollars qu'on a effectuées. On a été chercher des joueurs qui gagnent pas nécessairement des gros prix de fou. Là. Tu sais, Blake Snell, c'est pas un contrat exubérant qu'il y a, et on a utilisé justement, tu le disais à juste titre, on a développé vraiment un bon réseau des filiales. On a utilisé une partie du réseau des filiales en se disant, mais écoute, on n'a pas 15 lanceurs par temps qui vont arriver dans les 3 prochaines années, on peut se permettre d'en échanger. On en envoie à Tampa Bay, on envoie des joueurs de position à Tampa Bay, on en a envoyé à Chicago, on en a envoyé à Pittsburgh aussi dans la transaction Joe Musgrove. Donc, on profite du fait qu'on a bien développé pour dire on a le droit de se récompenser après notre beau travail. Et c'est ce qui fait en sorte que, même si c'est une plus petite équipe, on peut se permettre justement d'aller chercher ces gros joueurs-là.
Mais la beauté de la chose, c'est que malgré tout ce qu'on a donné, qui provenait des filiales, je pense qu'on a gardé les 3 meilleurs prospects quand même.
Ouais, même si ce n'est pas les 5, je ne me trompe pas, ou 4 des 5, là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui a été accompli. Oui, tu as raison.
Exact.
Ah, il y en a quoi? C'est-tu 5 dans le top 20 des meilleurs espoirs dans le baseball majeur? C'est-tu ça qu'ils ont, les Padres? Oui, il me semble que j'ai vu passer ça. En tout cas, c'est incroyable. Ouais.
Je ne suis pas certain des chiffres, mais dans le top 100, il y en a beaucoup. Là. C'est une des bonnes équipes dans le top 100.
Malgré tout ce qu'ils ont donné.
Ouais, c'est ça, c'est fou quand on y pense.
Ben, ça veut dire que les Padres sont là pour plusieurs années. Là.
Ah, définitivement. Oh, définitivement. Là, en tout cas, à part que là, c'est brun et jaune longtemps, là, on va se le dire. Ils vont être le fun à regarder. qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le prochain move qu'on va voir dans le baseball majeur là, pendant les camps d'entraînement, tout ça? Il reste-tu des grosses pointures à signer? Est-ce qu'on va voir des gros coups d'éclat ou ben, on s'en va au train-train quotidien? On va avoir une ligue des pamplemousses semi-relax, puis on va commencer la saison en bonne et due forme, ou il va y avoir Madame COVID qui va s'inviter probablement un peu partout?
Ben, il y a déjà quelques cas de COVID qui sont sortis, mais rien pour empêcher la tenue des activités du baseball majeur. Puis ça, il faut s'y en attendre aussi. On le voit dans les autres sports, il y a des cas de COVID. Malheureusement, il n'y a pas de bulle pure comme on avait l'été passé du côté de la Ligue nationale de hockey, par exemple. Mais il va falloir apprendre à vivre avec la COVID-19. Mais si on va vraiment au niveau baseball, le gros est fait présentement. Oui, il pourrait encore survenir des transactions, mais j'ai l'impression que peut-être que ça pourrait aller plus en cours de saison. Mais il reste quand même deux noms intéressants à signer. Jake Odorizzi du côté des lanceurs partants et évidemment Jackie Bradley Jr. qui n'a toujours pas trouvé preneur, l'ancien des Red Sox de Boston. Donc, il faut s'attendre possiblement dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, on ne sait jamais, à voir
si
ces gars-là
signés. Sur le podcast, ça se passe pas longtemps après.
Ben, écoute, ça se peut, je n'ai pas regardé mon cellulaire depuis 20 minutes, fait que c'est peut-être, le monde a peut-être changé depuis ce temps-là. Là. Mais non, il faut s'attendre à les voir signer éventuellement parce que ces gars-là veulent se rendre dans l'environnement d'une équipe le plus rapidement possible. J'ai l'impression que Bradley Jr., ça pourrait être relativement imminent dans son cas, mais c'est ce qui s'en vient là, du côté du baseball majeur.
Ben, ça a quand même bougé, tu sais, passablement. La signature de Tatis, Arenado qui passe du côté des Cards, Bauer qui signe avec les Dodgers. Donc, ça a pris du temps. Tu sais, je me demandais à un moment donné, j'ai dit, coudon, y a-t-il une mini-collusion entre les propriétaires qui fait que les agents libres, c'est plutôt tranquille, mais c'est un jeu d'échecs. On l'a mentionné à plusieurs reprises, Charles-Alexis, dans beaucoup de textes qu'actuellement, ben, en fait, il y a plusieurs semaines, c'était comme un jeu d'échecs qui se passait là, chez les directeurs gérants. Puis ça s'est passé comme ça. Tout le monde a calculé ses coûts. Tout le monde a... c'est un sport. Le sport spectacle maintenant, c'est des gros sous. Puis les directeurs généraux des équipes, ils ne font que calculer des salaires, des probabilités et ainsi de suite. C'est sûr que ça se transforme souvent en transactions. Mais je pense que l'onde de choc est passée. Oui, il reste quelques signatures intéressantes à faire. Mais maintenant, les équipes vont se concentrer sur ce qu'ils ont à faire là. Dans les camps d'entraînement pour avoir les formations les plus prêtes possibles quand on va venir le temps de démarrer la saison.
Je reviens rapidement aux Blue Jays. Ils vont commencer la saison sur les premiers homestands à Dunedin. Croyez-vous que rapidement, ils vont revenir à Toronto ou une possibilité qu'ils jouent la saison complète là-bas?
Ben, en fait, c'est impossible qu'ils jouent la saison complète là-bas parce que les Jays veulent pas, ils l'ont annoncé, ils veulent pas passer l'été là. L'été en Floride, c'est trop chaud, puis ça se fait quand t'es les Marlins ou les Rays et que t'as les moyens d'avoir un toit qui soit rétractable ou non là, sur ton stade. Mais dans le stade de printemps de Dunedin, les Jays ont pas de toit. Donc, vers le mois de juin ou peut-être juillet, les Jays vont monter vers le nord. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver à Toronto, mais si c'est pas possible, ça va se passer du côté de Buffalo, comme l'année dernière. Puis, tu vois, ils ont déjà prévu le coup parce que l'an passé, on avait joué à Buffalo, mais il n'y avait pas de saison des Bisons de Buffalo, l'équipe 3A. Là, il y a une saison, mais les espoirs s'est entraîné du côté de Rochester, qui n'est pas très loin. Et si jamais les Jays doivent déménager à Buffalo, ben, les Bisons peuvent déménager facilement à Rochester parce que l'horaire dans le 3A a été fait de telle sorte que les deux équipes de l'année n'ont aucun match à domicile en même temps. Donc, on peut partager le terrain là-bas. Les cartes ont été mises sur table de ce côté-là. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on y aille vraiment au fur et à mesure. Et quand on réalise que Dunedin, il commence à faire trop chaud, on va déménager soit à Buffalo ou idéalement à Toronto, parce que le président l'a dit, le Mike Shapiro, le but ultime, c'est de jouer à Toronto, et on peut les comprendre, on veut revenir à la maison, on veut revenir, même s'il n'y aura pas forcément de partisans, dans un environnement du baseball majeur, puis ça, Pascal, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est important aussi pour ces gars-là de s'entraîner, là, pour la deuxième année de suite, on ne veut pas être encore dans un stade des ligues mineures, même si cette fois, il y a un camp d'entraînement, c'est les installations de Dunedin, mais on veut être dans des installations des majeurs.
Ben, avec raison, je veux dire, les joueurs, ils peuvent avoir un stade assigné à eux ailleurs, mais c'est pas leur maison, là. C'est pas leur environnement, puis ils veulent jouer, même s'il n'y a pas personne dans les estrades. Mais moi, j'ai quand même des doutes par rapport à revenir à Toronto éventuellement, parce que regardez ce qui se passe au niveau du basketball. Les Raptors vont passer la saison à l'extérieur. Ce qui se passe au hockey, il y a une division canadienne. Comment ça va se formaliser dans les séries? Parce qu'à un moment donné, si on va avoir de pleines séries, on n'aura pas le choix de voir des équipes américaines et des équipes canadiennes croiser le fer. Mm-hmm. Mais possiblement que les équipes canadiennes qui vont passer à travers les autres rondes vont déménager du côté américain et ne plus revenir du côté canadien. Fait que moi, j'aimais quand même certaines réserves par rapport à des Jays qui vont jouer à Toronto, mais je l'espère de tout cœur pour ça redevienne un petit peu normal.
Mais on avait soulevé le point, Charles-Alexis, je ne sais pas si tu te souviens, mais que... Le Rogers Center est situé géographiquement bien placé. Tu sais, je veux dire, il y a un corridor avec l'aéroport Pearson et il y a un hôtel à même le Rogers Center. Donc, techniquement, tu sais, les équipes américaines qui viennent jouer pourraient être en quarantaine directement à l'hôtel au Rogers Center. Le problème, c'est la longévité, tu sais, c'est la longueur de la quarantaine. Tu sais, combien de temps tu veux qu'il soit arrêté et tout, là, c'est un peu compliqué. Mais techniquement, du côté de l'hébergement, du côté du transport, c'est faisable. T'sais. C'est plus du côté du gouvernement puis de la longueur de la période d'attente et tout là, qui cause problème. Mais en tout cas, on n'est pas là pour régler ça.
Mais c'est sûr que si les Jays veulent utiliser cette option-là, ça pourrait leur permettre de revenir plus tôt. Mais il faut se mettre dans la peau des joueurs aussi. Oui, on aurait des installations des majeurs, mais il faudrait que les joueurs des Jays aussi acceptent de vivre à l'hôtel parce qu'on ne pourrait pas avoir les joueurs des Jays qui reviennent de la même place aux États-Unis, mais qu'eux s'en vont à la maison. Il faudrait vraiment s'isoler, puis les règles sur la quarantaine au Canada sont tellement strictes et ces joueurs-là sont tellement riches qu'ils pourraient manger des amendes inimaginables. C'est sûr que les joueurs préfèrent rester aux États-Unis, être en mesure ne serait-ce que de sortir un peu de la maison au lieu d'être condensé dans cet hôtel-là, parce que sinon, c'est pas plus agréable pour les joueurs. C'est vraiment, tu sais, c'est un débat qui est difficile. Au niveau baseball, c'est dommage, mais si on le prend du point de vue citoyen, on est tous au Canada ici, on veut pas voir ces joueurs-là avoir des privilèges qu'on n'a pas, et c'est normal aussi. Donc, c'est ce qui rend le dossier très compliqué.
Exactement. Et ce qui est particulier, c'est que si on joue une saison complète, ça va être une saison avec beaucoup de matchs. L'an passé, ça a été différent parce qu'on n'a pas joué énormément de matchs. Mais là, une saison complète, là, à l'extérieur, ils vont trouver ça un petit peu long, je crois. Là.
Ouais, c'est vrai. Ouais,
vous avez bien raison, les gars. Hey, les gars, bon, faut que je vous réinvite encore parce que le couvre-feu, bien qu'il est rendu 9h à 9h30 en Outaouais, où est-ce que je suis, faut quand même que je parte dans pas long. Donc, faut arrêter. Mais je vous pose une question. En date d'aujourd'hui, qui vous voyez en série mondiale, nationale, américaine? Puis là, on s'entend, c'est des long shots, mais on s'amuse, puis il n'y a pas de gêne. Fait que je vous demande, je vous envoie la question, puis je me mouille après.
Ben écoute, je vais te dire le gagnant de la série Dodgers Padres. J'ai l'impression que ça pourrait être les Dodgers qui pourraient répéter un autre séjour en série mondiale. Mais d'un autre côté, les Padres aussi, si on arrive à battre les Dodgers, ça donnerait un boost incroyable qui permettrait de battre les autres équipes qui sont fortes là, dans la nationale, les Braves, les Cards, les Mets. Donc moi, je m'attends possiblement aux Dodgers. Et écoute, j'ai l'impression que les White Sox vont frapper fort. Je ne sais pas s'ils vont se rendre jusqu'en série mondiale parce qu'ils manquent d'expérience. Peut-être qu'ils doivent peut-être apprendre à perdre un peu là, avant de se mettre à gagner. Mais quand même, je m'attends à ce que les White Sox fassent un bon bout de chemin en série. Je ne sais pas encore si je les prédis jusqu'en série mondiale. Je n'ai pas fait mes prédictions jusque-là. Mais je vois les White Sox avoir une très, très belle saison. Ils se rendent loin.
Ben, on aurait dû se parler avant, Charles-Alexis. C'est sûr que logiquement, très, très, très logiquement, les Dodgers devraient passer, devraient se présenter une deuxième fois là, consécutive en série mondiale. Moi, j'aime bien les White Sox. Maintenant, tu sais, au même titre que ça va se passer beaucoup entre San Diego et Los Angeles dans l'ouest de la nationale, dans la centrale, les White Sox, dans l'américaine, il y a les Twins qui sont là. Les Twins font un bon travail depuis quelques années. Ça fait que moi, j'ai comme l'impression que la lutte qui va se faire entre les Twins et les White Sox va faire qu'il y a une équipe qui va sortir bien équipée. Mais maintenant, est-ce que c'est une de ces deux-là qui va se rendre en série mondiale? Il ne faut pas oublier les Yankees non plus. C'est sûr qu'une série mondiale, Dodgers-Yankees, ce serait un classique. Le classique des classiques. Mais c'est difficile pour moi de me prononcer ce soir, Simon, là.
Je comprends, on s'amuse.
J'ai répondu comme un politicien.
Ouais, mais c'est correct. Moi, j'y vais, les gars, avec ma prédiction long shot. Moi, j'y vais pour les Padres. Je pense que dans une série Padres-Dodgers, la motivation qu'il va avoir du côté de San Diego va être assez incroyable. Puis bon, sur le monticule, ils peuvent rivaliser. Donc, moi, je pense que je vais y aller avec les Padres du côté de la nationale. Du côté de l'américaine, j'ai hâte de voir qui va sortir gagnant de la section de l'américaine Est entre les Yankees et les Blue Jays. Je pense que les Blue Jays vont être surprenants. Donc, je vais y aller avec les Yankees en série mondiale aussi. Donc, Yankees Padres pour une série plutôt bizarre. Je pense pas hein, que les Padres n'ont jamais atteint la série mondiale.
Oui.
Oui? OK. Bon, même pas contre. Ils ont-ils joué contre les Yankees?
Mais je pense pas, mais il avait perdu contre les Tigers en 84 de mémoire.
Ah ouais, OK.
Bon. Ils ont pas atteint aussi vers la fin des années 90 ou...
Ça se peut.
Parce que les années que les Yankees étaient là, j'ai pas les années devant moi, mais les Padres, de mémoire, dans la fin des années 90, c'était fort. Les Yankees se rendaient souvent en série mondiale. Peut-être qu'il y en a eu un là, mais je suis pas certain.
Ouais, non, je sais pas. En tout cas, ça serait le fun de voir ça, les jeunes Padres contre les puissants bombardiers du Bronx. J'y vais pour ça, mais écoutez, les gars, merci beaucoup. C'est vraiment cool de vous parler. Pascal, on se connaissait pas. Je te découvre. C'est super intéressant tes propos. Charles-Alexis, c'est toujours un plaisir. T'es le bienvenu tout le temps. Et puis, je te réinvite d'ailleurs quand on va recevoir Maxime Lamarche de Baseball Québec prochainement. Donc, je te réinvite à ce moment-là. Donc, hey, merci les gars, c'était vraiment cool. Puis j'ai tellement hâte de voir des matchs de balle.
Ça sent bien, ça sent bien.
Dimanche prochain, là, Yankees contre Blue Jays, c'est clair que je trouve un moyen de voir ça. Merci les gars pour vos propos, c'était super cool. Puis bonne continuité avec Passion MLB. D'ailleurs, on peut plugger un peu le site Passion MLB et aussi l'émission au 91.9 Sport à Montréal. Donc, Charles-Alexis, je te laisse faire une petite plug rapide.
Ben écoute, passionmlb.com, on publie vraiment des textes à tous les jours. On a toute l'équipe, incluant Pascal, là, qui en a sorti un justement dans la dernière heure. On se colle vraiment sur l'actualité. On suit ça de près, puis je suis vraiment fier du travail qu'on accomplit, là, tout le monde. Je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on arrive à faire, à pas vraiment manquer de nouvelles dans le monde du baseball. Et tu parlais de l'émission aussi sur les ondes du 91.9 Sport, donc diffusée le samedi en rediffusion le dimanche à 15h. Tous les extraits audio qui sont disponibles aussi sur le site du 91.9 Sport. Donc, beaucoup de façons d'entendre parler de baseball. Là, il n'y a pas d'excuse de nous manquer.
Définitivement pas d'excuse. Bonne continuité, les gars, puis on se reparle prochainement. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Merci.
Ciao. Salut. All right. Hey, on met fin à l'émission right now parce que j'ai la route à prendre. Faut que je me rende chez nous dans les 15 prochaines minutes en Outaouais. Couvre-feu à 9h30. Donc, merci tout le monde qui a été là. On va rediffuser cet épisode-là. C'était super intéressant. Première partie du show avec Pat Laprade et Michael Lalancette et Charles-Alexis Brisebois-Pascal Harvey de Passion MLB. Merci d'avoir été là. Jeudi, je suis de retour pour un autre podcast. Je reçois Jean-François Barry et son fils Nathan, qui est un prospect pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Donc, on va jaser avec eux. On va jaser avec Jean-François de son rôle avec son fils, etc. Et aussi, on va jaser de plein d'autres affaires de hockey, etc., etc. Donc, merci la gang d'avoir été là, puis à jeudi. Ciao!